Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour le 20e épisode. Et aujourd'hui, c'est encore une fois la semaine spéciale baseball, mais avec une mention la balle, comme je vous expliquais dans le dernier épisode. Ce n'est pas une semaine 100% baseball parce qu'il y a un invité qui est différent des autres, qui n'est pas juste dans le baseball, bien sûr. C'est Renaud Lefort. Et oui, ceux qui connaissent Renaud Lefort, il est membre des 4 Chevaliers Easton, qui sont une équipe de fast-pitch, softball, que je pourrais dire, artistique, événementiel, sportif, qui touche un peu à tout. C'est un peu, comme je disais, les Harlem Globetrotters du baseball, softball. C'est des magiciens, en quelque sorte. C'est un show qu'ils donnent à chaque fois qu'ils ont un match. Mais c'est vraiment des matchs réels. C'est sincèrement, si vous n'avez jamais vu un match des 4 Chevaliers, allez voir ça, c'est vraiment unique. C'est des athlètes incroyables, c'est les meilleurs joueurs de fast pitch qu'on a au Québec, ils sont imbattables. Quand je dis imbattables, là, en carrière, dans toute l'histoire des 4 Chevaliers, c'est 2732 victoires contre 68 défaites. C'est assez incroyable. On pense à 2700 victoires. Là, c'est quelque chose contre 68 défaites. On peut dire qu'ils sont imbattables, carrément. Là. Mais il y a toujours des gens qui se prêtent au jeu et qui essayent de les battre, qui restent assez surpris de voir à quel point ils sont forts et qu'ils sont vraiment très, très, très performants. Et puis, Renaud Lefort fait partie des 4 Chevaliers. C'est lui, en fait, qui a reparti la machine des 4 Chevaliers après la belle époque. Ceux qui sont plus vieux qui nous écoutent, ou comme moi qui connaissais ça par leurs parents ou quoi que ce soit, dans les années 80-90, là, ça fait quand même déjà plus de 50 ans que les 4 Chevaliers existent. Dans les débuts des années 80, ça a été très, très populaire. Ils parcouraient toutes les régions du Québec pour rencontrer des équipes locales afin d'accumuler des fonds pour la recherche ou des bons organismes de bienfaisance. Et puis, les 4 Chevaliers ont toujours cette mission-là aujourd'hui. En carrière, depuis le début, en fait, de la création des 4 Chevaliers, c'est déjà plus de 7,5 millions de dollars qui a été accumulé pour divers organismes communautaires et de bienfaisance. Donc, c'est une belle organisation qui mérite d'être connue et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous le partager à travers mon podcast. Vraiment, je suis très, très heureux de pouvoir vous l'offrir. Je vous dis tout de suite, je suis désolé, il y a eu énormément de pépins à travers le podcast au niveau technique avec le cellulaire à Renault. C'était pas évident autant pour lui, pour moi que pour vous. Là, je suis vraiment désolé, c'est pas de sa faute. Là. On lui pardonne, il a déjà été en masse généreux de son temps. On avait parlé de 45 minutes finalement, je ne sais plus trop. Ça a duré plus d'une heure et demie, je pense. C'est vraiment un très bon podcast malgré tout. Et je vous demande d'être patient parce que oui, ça a coupé un peu ici et là au début. Je pense après une demi-heure, il y a eu des petites coupures. Des fois, ça laguait, ça revenait. Mais vers la fin, ça s'était bien replacé. Sincèrement, Renaud avait réussi à trouver une façon de remettre son réseau d'une bonne façon. Donc, tout était revenu à la normale. Donc, ceux qui sont intéressés par le podcast, qui disent « Ah, ça reviendra pas, ça lague trop », soyez patients vers la toute fin du podcast. Là, même quand ça commence à bugger, ça revient pendant un bon bout. On a fait 3 prises différentes pour pouvoir vous offrir le podcast. Donc, ça a été 3 batchs différents d'enregistrement. Bref, un gros, gros merci à Renaud Lefort d'avoir été présent pour ce podcast et d'avoir été aussi généreux et patient parce que ça n'a pas été facile, ce podcast-là. Mais mine de rien, il a été très, très intéressant malgré tout. Donc, ça me fait plaisir de vous le partager. Et puis, j'ai une commandite aujourd'hui pour le podcast. Je le dis à voix haute, mais tous ceux qui ont des entreprises qui veulent faire connaître davantage à travers le podcast, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous offrir cette commandite-là. On va s'organiser ensemble. Là. C'est une belle façon pour moi de redonner, de pouvoir promouvoir en fait des entreprises locaux parce que le Made in Québec podcast a pour but de faire connaître des entreprises d'ici. Et là, en plus, j'encourage un chum de la gang des chums, ceux qui connaissent la tournée des chums aussi, avec Stéphane Rousseau. C'est pas l'humoriste Stéphane Rousseau. En fait, je parle de Stéphane Rousseau, lui qui a parti la tournée des chums, qui est un peu similaire également avec ce qu'on voit dans le podcast des 4 Chevaliers. C'est une tournée de Balmol qui parcourt la région pour accumuler des fonds pour les divers organismes communautaires et également qui vend des tickets pour aller aux Blue Jays durant la saison, des pré-saisons, en fait, quand ils viennent au stade olympique. Et puis, on était déjà à plus de 800 billets vendus avec la tournée des chums qu'on avait dans notre section. Je dis « on » parce que je suis leur photographe également officiel pour la tournée des chums. Donc, aujourd'hui, je parle de Stéphane Rousseau qui a parti son entreprise qui est, je vais vous donner les détails comme il faut, les solutions SR+, ceux qui veulent faire connaître en fait leur entreprise, avoir plus de visibilité côté marketing. Excusez-moi, je vais me remettre mes lunettes pour pouvoir vous en parler plus clairement parce que je ne vois pas grand-chose. Bon. Ça va être plus clair comme ça. Donc, les solutions SR+, ceux qui se demandent c'est quoi? C'est une entreprise spécialisée en service expérience client avec plusieurs services de publicité, marketing, représentation, vente pour tous vos projets, vos organismes, votre entreprise, votre passion et vos défis, bien sûr. Pour tous vos projets privés, vos projets commerciaux, des offres de bienfaisance, des solutions sont possibles pour vous grâce aux solutions SR+ enregistrées. Et puis, je vous dis, c'est vraiment, Stéphane, c'est un gars de cœur, c'est un gars qui va se dévouer à 100% pour votre entreprise. Exactement comme il dit, les solutions SR+, en fait, partagent des valeurs axées sur l'intégrité et toujours à l'écoute des besoins de sa clientèle, en fait. Vous donnez l'heure juste sur les projets réalisés avec vous dans le but de vous satisfaire pleinement. Pour lui, la qualité, l'exécution des travaux sont selon vos attentes et selon vos clients, font toute la différence. Donc, marketing, vente, publicité, représentation, service, expérience client, événement ou plus. Bref, les solutions SR+ enregistrées. Allez suivre ça sur Facebook. C'est vraiment un gars que je veux encourager, que je veux faire une belle petite pub aujourd'hui. Et puis, comme je dis, si vous avez une entreprise que vous voulez faire connaître par le podcast, ça va me faire plaisir de pouvoir faire un partenariat avec vous. Et en même temps, désolé pour les gens si ça prend un peu plus de temps, mais c'est le but du podcast, encourager l'économie locale. Donc, c'est ce qui termine l'intro d'aujourd'hui. Et puis, allez encourager les solutions SR+, et puis écouter le podcast par la suite. Ça va me faire un plaisir de vous faire découvrir les quatre chevaliers par le biais, en fait, de Renaud Lefort, membre des quatre chevaliers Easton. Alors, merci beaucoup tout le monde et merci encore une fois à Renaud Lefort pour sa présence dans le 20e épisode du Made in Québec podcast. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 20. Et aujourd'hui, je reçois Renaud Lefort, le seul et unique membre des Quatre Chevaliers, le club légendaire de Balmol, les Harlem Globetrotters, si on veut, du baseball, softball en quelque sorte. C'est vraiment des joueurs uniques de ce sport. Ceux qui ne connaissent pas les Quatre Chevaliers, anciennement les Quatre Chevaliers O'Keefe, maintenant devenus les Quatre Chevaliers Easton, on va faire un petit topo rapide pour vous dire qui est Renaud Lefort et qui sont les Quatre Chevaliers, parce que ça vaut vraiment la peine. Comme vous le savez, on est dans la semaine spéciale baseball et là, on fait une petite exception. Je reçois quelqu'un qui a un lien avec le baseball, mais qui est quand même dans un milieu différent avec la softball. Mais c'est tellement un parcours exceptionnel. Je vais vous dire les grandes lignes sur le champ. Vous allez vraiment être très impressionnés. Alors, les Quatre Chevaliers ont été fondés par M. Claude Potvin. Il y a de cela, en fait, plus de 50 ans. Ça fait déjà un petit bout. Mon père m'en avait parlé en long et en large des Quatre Chevaliers. C'était très populaire à une certaine époque. Et puis là, ils ont comme tombé un peu dans l'ombre avec les années. Il y a aussi M. Potvin qui avait délaissé les Quatre Chevaliers. Par la suite, il y a quatre joueurs qui ont repris ça, dont Renaud Lefort, qui est avec moi aujourd'hui. Et puis, c'est déjà vraiment exceptionnel leur parcours. Dans les quatre dernières années, plus de 250 000 $ remis à des organismes de bienfaisance. Chaque été, c'est plus de 40 matchs dans 40 villes différentes. 800 à 2000 spectateurs par match, là, c'est exceptionnel. Là, on parle de la balle molle quand même. Là. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Ils ont là une émission également à TVA Sports. Pour ceux qui se disent « Hey, j'ai déjà vu ça à la télévision aussi », ben oui, ça passe à TVA Sports. Donc, hier, j'ai zappé par hasard dans la télévision puis je suis tombé sur la face de Renaud Lefort dans mon écran. Et puis, j'ai regardé ça, c'était vraiment très divertissant. C'est plus de 2,5 millions balles lancées par année. Pas par année, en fait, depuis le début de la création. 2732 victoires contre 68 défaites. Quand je dis club légendaire, là, c'est une bonne moyenne au bâton. Là. C'est exceptionnel. 2700 victoires. En gros, les chevaliers, là, sont, les quatre chevaliers sont imbattables. Là. Je vous dis, je vous mets au défi des battes. C'est le but à chaque été. C'est, les gens essayent des battes. C'est quasiment infaisable. 45 000 adversaires ont été rencontrés par les quatre chevaliers. 35 000 retraits sur trois prises. Aïe, aïe. 60 000 balles frappées, 6850 circuits frappés. Je vous sors plein de statistiques parce que c'est vraiment des statistiques qui sont hallucinantes. 973 personnages ont été incarnés. Quand on parle de statistiques assez loufoques, oui, parce que les quatre chevaliers, c'est un show. Vous allez voir ça, là, vous avez du plaisir. Amenez la famille, amenez les enfants. Le but, c'est de rire, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun dans les estrades. C'est un party carrément. Là. Vous allez aux quatre chevaliers, là, le monde, ça tape des mains, ça rit, ça jase. C'est pareil comme une ligue de balles. C'est vraiment hyper intéressant. Et puis, je vous dis, vous avez pas mal plus que pour votre argent, en fait, qu'une simple game de balles. Et puis, en fait, les quatre chevaliers, surtout Renaud, incarnent des personnages. Et quand je parle de personnages, on pense à un vieillard, on pense à Superman, Batman, whatever, Spider-Man. Imaginez-les toutes. Ils frappent avec des marteaux, des barres de métal, tout ce que vous voulez. Un circuit par derrière avec ça. On va en parler en long et en large de ça aussi. C'est exceptionnel, tout ce qu'ils font avec leurs mains. Bref, 2800 pamplemousses ont également été éclatées dans les quatre chevaliers. Une autre statistique assez impressionnante et assez drôle également. 12 millions de bières vendues. On passe, parce qu'on a parlé de Bob Bissonnette au dernier podcast. On sait qu'il en vendait de la bière, Bob, mais les quatre chevaliers en vendent pas mal avec eux autres aussi. 1,2 million de dogs ont été vendus dans les quatre chevaliers. C'est assez spécial, ça aussi. 4 millions d'assistances au total depuis la création des quatre chevaliers. Félicitations à tout le monde qui encourage ça, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a été accumulé. Et quand on parle d'argent au total, là, c'est 7,5 millions qui a été amassé pour plein d'organismes de bienfaisance. Assez vraiment, là, félicitations. Je lève mon chapeau aux quatre chevaliers et à Renaud et à toute l'histoire aussi. Bref, il est l'auteur aussi, Renaud Lefort, du fameux circuit que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je l'ai vu en boucle, surtout cet hiver, parce que je pense que c'était ESPN, Sports Center, qui ont repris ça. C'était le fameux circuit par derrière de Renaud Lefort. Ceux qui l'ont manqué, quand je parle de par derrière, là, quand on est droitier, on se met du côté, face à nous, la plaque, le marbre est face à nous, on regarde le lanceur. Renaud se met de l'autre côté de la plaque en tant que droitier, mais de dos au marbre et se revire en 360 et t'es capable de claquer un circuit malgré tout. Exceptionnel, on va en parler de ce moment-là, unique. Et puis, il est aujourd'hui également le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, durant l'hiver, ça tient encore plus occupé, en plus de ses entraînements hivernales. Vraiment une carrière bien remplie. Alors, on va parler de sa belle carrière en détail maintenant dans le podcast pour l'épisode numéro 20 du Made in Québec podcast en compagnie de Renaud Lefort. Alors, Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Ça fait plaisir, Antoine.
À moins des choses que je t'invite. Alors, Renaud, premièrement, comment vas-tu malgré tout la pandémie qui a pas mal freiné vos activités de votre côté? Comment ça va?
Ah, ben, je dirais que le beau temps déjà... Je te dirais que le soleil me rend heureux en partant, moi, dans la vie. Fait que je me rattache à ça, au soleil, au fait qu'on peut quand même jouer à la balle. Malgré tout, on se rend compte, on a du plaisir. C'est sûr qu'au niveau des spectacles, ça me manque de croiser les gens. On est habitué maintenant depuis 7 ans, on fait le tour du Québec. On a entamé d'ailleurs notre 8e saison. Fait que c'est ça. Nous autres, c'est rendu un rythme de vie pour nous de revoir, souvent même on revoit les mêmes personnes d'année en année, puis on est habitué comme ça, fait que c'est sûr que ça nous manque. On est vraiment chanceux de l'avoir vécu maintenant depuis 7 ans, là, je te cacherai pas. J'ai toujours décrit les quatre chevaliers comme la petite séduction, mais 40 fois par été.
Exactement.
À chaque fois qu'on arrive à quelque part, les gens sont heureux de nous accueillir, les gens sont gentils. Je pense que c'est la plus belle chose de tout le concept au complet, là, c'est de pouvoir être proche des gens, être proche des jeunes. Je ne te cacherai pas, à un moment donné, au courant de la pandémie, là, je regardais les photos qu'on a avec plein de jeunes autour de nous quand on fait des camps d'entraînement avant les matchs. Là, t'sais, pis ah ouais. On a une 50-60 de jeunes. Puis j'avais la boule dans la gorge à me demander si on allait pouvoir revivre ça. Là, J'étais bien découragé, mais...
C'est dur, pareil. Hein? Tu te demandes si ça va revenir un jour aussi. Là, tu te dis, vas-tu pouvoir avoir ce contact-là encore à nouveau? Là?
J'étais rendu là, un moment donné, dans ma tête, là, quand que... C'est ça, quand que la pandémie était... Tu sais, le confinement était au sommet. Là, j'étais rendu très... C'est ça, j'étais... Je savais plus comment penser, puis tout ça. Je te cacherais pas que j'ai passé une période un peu plus sombre dans ma tête, là, que j'ai trouvé ça très difficile, là, mais... T'sais, on s'y est fait. Là, regarde, la saison est annulée. Quand on se compare, on se console. T'sais, fait que c'est plate à dire, mais malheureusement, j'ai des exemples de gens pour qui la pandémie aura été pire que pour moi.
Ah, on l'a tout vécu d'une certaine façon aussi.
Je pense que, t'sais, un moment donné, on vient rationaliser tout ça puis à se remettre dans notre position actuelle, à se dire qu'on est quand même chanceux, on a des enfants, on passe du temps avec les enfants. J'ai un garçon de 7 ans, puis ça fait 8 ans que j'ai parti à Quatre Chevaliers. Puis ma fille, elle a 5 ans. Fait que bref, j'ai jamais eu aucun été avec mes enfants depuis qu'ils sont au monde. Donc,
ça a des avantages.
C'est là-dessus que je me suis rattaché. Là. Mais on produit quand même nos émissions pareil. On a réussi à sortir des moments inédits, des meilleurs moments depuis maintenant 7 ans qu'on est diffusé à la télévision. Fait que, ouais, c'est ça. On a quand même réussi à sortir une belle petite saison télé. Fait que ça vient au moins nous donner un petit quelque chose à faire pendant ce temps-là, là, parce que je te cacherais pas que je me sentais bien inutile à un certain moment donné dans le confinement. Là.
Ah, effectivement, puis c'est sûr, je te voyais aussi sur les réseaux sociaux, tu as été très impliqué, tu as lancé des messages, je pense, pour tous les joueurs de balle molle au Québec et de baseball également, parce que tu es un petit gars qui joue au baseball, puis tu sais, j'écoutais ton message lancé au gouvernement Legault, puis qui, tu sais, d'expliquer à quel point que c'était faisable de jouer au baseball, que c'était faisable de recommencer les sports et d'été, d'équipe, bien sûr, là, à une certaine... Je veux dire, adaptation versus la situation qu'on vit actuellement. Puis c'était vraiment, ton message était clair, net et précis. Puis je te soutiens totalement dans ce message-là. Puis je pense qu'on a, comme on peut dire, on peut s'adapter à cette situation-là aussi. Puis je pense que ton message s'est rendu à bonne place parce que deux jours après, tout réouvrait.
Ouais, Colin, j'oserais pas m'attribuer là, les honneurs au complet de cette décision-là que le gouvernement a prise. Là, je pense qu'on a eu plusieurs personnes qui ont travaillé sur le dossier à forcer la note. Là, mais tu sais, nous autres, il faut comprendre. Il y a des gens qui ne comprendront pas ça. Mais depuis des années, on nous parle, on nous dit que le sport, c'est la santé, qu'il faut sortir, il faut aller prendre du soleil, la vitamine D. Il y a plein d'autres facteurs là, dans tout ça là, qu'il faut analyser. La santé mentale. Puis le sport, ben, tu sais, c'est sûr que pour moi, là, le sport, ça a tout le temps été mon exutoire. C'est l'endroit où est-ce que je me sens le mieux, c'est sur un terrain de balle. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pareil pour beaucoup de jeunes enfants aussi. Fait que je pense que oui, il y avait une façon de le faire intelligemment, puis de reprendre nos activités. On voyait les chiffres aussi, tu sais, faut dire à un moment donné, là, je comprends qu'il faut que le gouvernement entretienne encore un certain climat de... Je vais dire de peur, mais en réalité, c'est de méfiance et de précaution à prendre.
Exact.
C'est pour ça que là, ils nous répètent, mais on va se dire quand même que, tu sais, à la lumière de ce qu'on voit, les chiffres sont moins épeurants que ce qu'on aurait cru il y a de ça 3 mois.
Il faut s'adapter à tout ça aussi.
Donc à partir de là, c'est là où est-ce que, tu sais, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre la vie des gens à terre parce que là, on parle beaucoup des morts liées au COVID, mais tu sais, moi, mon entreprise en est un exemple avec les Quatre Chevaliers. On a perdu des commanditaires, on a perdu toute notre saison. Financièrement.
C'est vrai, ça, les commanditaires, on oublie ça.
Financièrement, nous autres, on mange une claque. J'ai la chance de pouvoir l'absorber au moins cette année. Je ne serais pas allé l'absorber pendant 2 ans, par exemple. Par contre, il y a du monde qui était en démarrage d'entreprise pour qui une année perdue comme ça, c'est très, très grave au niveau financier. c'est là où est-ce que... Il faut prendre ça en considération à un moment donné. Puis moi, c'était plus ça. Là, mon angle là-dedans, c'est que je suis en communication avec beaucoup de jeunes entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, des restaurateurs, des tenanciers de bar. T'sais, ça, c'est tous des gens qui font partie de mon entourage. J'ai beaucoup quand même j'ai un bon set d'amis, tu sais, puis tu sais, c'est ça. Ça fait mal d'écouter leur histoire, ça fait mal d'entendre combien il y a de pertes, puis pendant ce temps-là, ben, tu sais, les paiements, oui, il y a eu une partie qui a été aidée par le gouvernement, mais d'un autre côté, c'est jamais suffisant pour la grande majorité là, qui perdent là, des mois et des mois là, de revenus. Fait que C'est ça. C'est pareil pour la Ligue nord-américaine. T'sais, je me retrouve un peu dans la même situation. Moi, dans mes deux emplois, là, on est. Ben, premièrement, on a annulé les séries au grand complet. On ne sait pas quand est-ce qu'on va recommencer. On s'est fait un calendrier au mois d'octobre, mais là, on parle de déconfinement, de reconfiner peut-être s'il y a deuxième vague.
C'est sûr, c'est à l'automne.
C'est difficile là, pour le monde événementiel et pour le monde sportif présentement.
C'est une catastrophe.
Parce qu'on veut produire des événements grandioses, mais ça ne prend pas deux jours pour produire des événements d'une grande envergure. Fait que là, on est rendu quasiment obligé de faire juste du petit parce qu'en réalité, on vient d'avoir la preuve que peu importe ce que tu veux entamer comme projet, là, à cette heure, là, tu peux te le faire arrêter d'une seconde à l'autre. Ah, le gouvernement vient de dire, regarde, tu as investi 45 000 à faire tel projet, ben malheureusement, tu viens de le perdre. On t'annule ça, vous n'avez pas le droit de faire des ça. T'sais, c'est juste ça. C'est complètement ailleurs. On est dans un autre monde. Puis c'est ça. C'est moi, dans mes domaines dans lesquels j'ai toujours travaillé, j'ai toujours pensé que j'étais en quelque sorte, je dirais pas essentiel, mais que j'étais un service qui contribuait grandement au bien-être de la société. Autant par le fait qu'on ramasse des fonds, mais qu'on inspire des enfants. Qu'on les inspire bon, à faire du sport, à sortir de chez eux. On les rend heureux, on les fait rire, on réunit des familles. Il y a des enfants pour qui on est devenus des idoles. On leur répond. J'ai été rencontré un petit garçon justement qui avait qui avait une opération là, à subir le 24 juin au cerveau. C'était sa deuxième fois qu'il allait se faire opérer. Puis c'était quand même une opération assez dangereuse. J'ai été le rencontrer à Québec pour y donner du courage. Tu sais, j'ai fait plein d'autres affaires de même, comme aller voir un autre petit garçon qui avait il était victime d'intimidation à l'école, puis il venait de s'inscrire au baseball, puis il avait un certain talent, mais là, les jeunes commençaient à l'accepter parce qu'il était quand même bon, puis là, son père voulait que j'aille donner des cours, puis tu sais, je me suis rendu jusqu'à le voir. Puis là, tu sais, du jour au lendemain, après avoir fait tout ça, ramasser des centaines de milliers de dollars pour des organismes de bienfaisance, tu te fais tout arrêter en te faisant dire que t'es pas essentiel. Puis on catégorise comme ça chaque travailleur qui a été confiné se sont fait, dans le fond, catégoriser, on s'entend, de non essentiel. J'ai trouvé ça insultant. On est rendu, on essaie de ne pas catégoriser, justement. On parle de discrimination beaucoup, tu sais. Puis j'ai juste trouvé ça complètement ridicule de classer ça par un titre aussi réducteur, quand en réalité, depuis 8 ans, avec les 4 chevaliers, on a fait un travail qui est quand même assez. Ça mérite quand même une certaine reconnaissance. Puis, on n'est pas le cible du soleil, mais on mériterait quand même un appui du gouvernement éventuellement.
Tu as tellement raison, Renaud, parce que on lance le même message les deux, parce que je fais des conférences dans les écoles secondaires justement pour inspirer les jeunes à croire en leur passion puis à faire ce qu'ils aiment de leur vie. On lance un message un peu similaire dans le sens que toi, tu inspires les gens par ton sport, par ton show aussi que tu donnes sur le terrain. Il y en a tu deviens des idoles carrément, comme tu dis. Et puis, tu sais, c'est frustrant. Je comprends très bien ta frustration. Puis, tu sais, je veux pas que les gens nous interprètent mal de dire qu'on comprend pas le confinement puis qu'on est contre quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça de mon côté, en tout cas. Là, c'est vraiment une question de dire, oui, c'est important qu'on confine, mais en même temps, il y a des gens qui travaillent que c'est supposément essentiel, mais il y a aussi d'autres choses qu'on oublie au niveau essentiel, qui est quand même, je peux dire, pas la santé mentale, là, mais ça fait partie du divertissement d'une certaine santé mentale, là, d'un équilibre de vie, puis ça prend une certaine forme de divertissement. Il y en a des plus risqués que d'autres, il y en a que des spectateurs, que je comprends que les humoristes, c'est pas évident dans une salle non plus. Mais en même temps, de mon côté, je me dis, tu sais, les jeunes allaient à l'école, puis je ne pouvais même pas aller les rencontrer pour donner une conférence parce que c'est plus toléré de se rassembler dans un auditorium, mais dans une classe, ils ont le droit, tu sais. Fait que c'était frustrant. J'ai eu une frustration aussi parce que ça fait plusieurs années que je bâtissais ça, puis de voir que du jour au lendemain, malheureusement, tu sais, c'est plate. Moi aussi, c'était mon travail principal avec la photographie. C'était mes deux travaux principaux. Puis les deux, photographie sportive, j'en donne plus main non plus. Fait que, tu sais, c'est du jour au lendemain, tu dis tout ce que tu as fait, c'est pas à l'eau, mais pas loin. Ça décourage, mais c'est vraiment, c'est le but du podcast quand je décide de le lancer, c'est de dire, il y a une lumière au bout du tunnel. Il y en a qui vont s'en sortir, comme toi, les 4 chevaliers, je suis convaincu que vous allez vous en sortir. Puis, tu sais, c'est vraiment de dire, garde, on comprend que c'est difficile pour plein de gens. Mais il y a une façon de voir cette lumière-là au bout du tunnel, puis il y a une façon de dire, regarde, on peut peut-être opérer d'une autre façon, mais pour continuer d'inspirer les gens comme dans nos deux cas.
Totalement. Écoute, c'est comme tu dis, dans le fond, c'est pas qu'on. Moi, je doute pas. Là. Il y a du monde qui m'ont douté. Est-ce que le virus est là? Est-ce que le virus n'est pas là? Moi, j'ai pogné une grippe à la fin du mois de février. Je vais te dire, franchement, là, j'ai eu une grippe d'homme. Sérieusement, j'ai jamais pogné ça de ma vie aussi fort que ça. Au fin février, on parlait de peut-être un cas possible au Québec. Tu sais, c'était vraiment flou.
On avait pris le métro, puis tout le monde capotait. Je pense que j'ai pogné Berry-UQAM cette journée-là, tu sais, puis tout le monde,
c'était
la folie
furieuse. C'était vraiment flou. Puis, tu sais, je me rappelle que je savais que le COVID était peut-être arrivé, mais j'avais une bonne grippe. Je ne l'ai pas associé à ça, mais écoute, je vais te le dire, là, j'ai jamais été malade de même de ma vie. Là. À n'en tousser, à ne jamais être libéré. En tout cas, je me rendrai pas jusque dans les détails. Là,
non. T'as été bien malade.
Mais je me rappelle très bien à un moment donné de me dire, si j'avais 75 ans, au moment où on se parle, je suis même pas sûr que je passerais à travers. Puis, ceci étant dit que je comprends les mesures qui ont été mises en place, je comprends l'espèce de confinement, mais à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il faut aussi que là, après tant de mois, tu sais, il faut que les business puissent aussi opérer là, parce qu'il y a une autre forme de mortalité que tu vas trouver ailleurs.
Tu
vas s'attaquer à des gens qui étaient probablement voués à vivre encore plus longtemps. Mais, puis c'est juste le début parce que là, on parle de reconfiner, on parle de deuxième vague. Ça fait mal, ça fait peur. Puis en tout cas, moi, je suis persuadé qu'il y aurait juste... T'sais, autant que pour nous autres, les chevaliers, on aurait une façon de rassembler 1000 personnes autour d'un terrain de balle. Puis,
on est à l'extérieur.
Ramasser des fonds pour des bonnes causes. On est à l'extérieur. Les terrains sont immenses. Tu as moyen de faire des cercles à terre et de ramasser 4 personnes de ta famille, rentrer dans le cercle.
Très
créatif. Je comprends pas, mais c'est juste plate que tout est géré par groupe. Puis, les restaurateurs peuvent recommencer. Puis, je dis tant mieux. Je suis vraiment content pour eux autres. Mais c'est comme si nous autres, on arrive avec un produit unique. Notre groupe est mis de côté, on ne se fait pas entendre. J'ai essayé d'appeler moi ici ma députée, mais gars, ça a été ce que ça en est. Là. J'avais une meilleure relation avec l'ancien, là. C'est une nouvelle. Puis ça n'a pas nécessairement donné qu'elle a. Je pense qu'elle ne nous connaissait même pas en partant. Là. Elle vient même pas de mon secteur anyway. Fait que... Mais c'est juste ça, c'est juste qu'il y aurait eu tellement facilité, nous autres, de faire ces événements-là. Puis il y a des secteurs qui ont continué à rouler et qui auraient eu. L'argent de venir voir un match des Chevaliers à 10$, c'est ça qui est la force des Chevaliers, justement. On atteint tous les types de budgets dans le sens où est-ce que c'est probablement le plus beau divertissement pour le moins cher que tu peux payer pour amener toute ta famille voir un divertissement sportif en plus, comme ça, qui t'incite à vouloir aussi bouger par la suite. Puis
c'est pas cher pour la qualité.
Qui a initié des gens aussi à découvrir le sport du baseball, qui est un. Moi, je trouve que c'est un sport qui est magnifique pour l'évolution même de toi-même comme personne. T'sais, c'est un sport dans lequel, oui, tu joues en équipe. Il faut que tu apprennes à jouer en équipe, mais aussi que tu apprennes à surmonter des moments où est-ce que ça te dépend juste de toi. J'aime ça, ce côté-là, moi, que le baseball apporte. Puis, tu parlais de tes conférences avec les jeunes. Puis, je te parlais d'à quel point ça me fâchait le côté non-essentiel parce que je sais à quel point j'en ai inspiré. Je sais à quel point j'ai fait du bien à plusieurs enfants. Mais tu sais, la ligne directrice que je dis un peu à tous les enfants quand on leur donne un camp d'entraînement puis qu'on termine, je leur parle puis là, je leur dis, bon, est-ce que... Là, je lui pose une couple de questions avant puis là, maintenant, je leur dis, est-ce que vous savez c'est quoi la chose numéro un que ça prend pour être un bon joueur de baseball? Il y en a un qui lève sa main, avoir du plaisir? C'est une bonne réponse, ça, avoir du plaisir. C'est pas ça que je cherche encore, mais ça, c'est bon.
C'est un bon départ.
C'est une chose que ça. Là, après ça, il lève sa main, il dit, frappez fort! Mais pas aussi, ça. C'est une bonne réponse. Mais il y a une autre chose encore que ça prend pour vraiment avoir du succès. C'est quoi? L'autre, il dit jouer en équipe. Jouer en équipe aussi, c'est une bonne réponse. Mais je vais vous le dire, c'est quoi la réponse? Pour être un bon joueur de balle, là, ça prend de la confiance. Puis ça, vous allez vous en rappeler pour le restant de votre vie.
Tellement
parce
vrai.
Que dans tout ce que vous allez faire, ça va prendre de la confiance pour réussir. Ouais. Puis, je vais vous donner le meilleur exemple à la balle où est-ce que ça prend de la confiance. Puis vous allez vous-même réaliser à quel point que c'est vrai. Tu sais, quand la balle, elle arrive sur toi, là, si tu te poses la question dans ta tête à savoir « Je suis capable? Je suis pas capable? Je vais-tu l'attraper? » Qu'est-ce que tu penses qui va se passer?
Dans le vide.
Le temps que tu t'es posé la question dans ta tête, tu vas te revirer puis elle va être déjà en arrière de toi. Si la balle, elle arrive vers toi, là, puis tu te dis « Regarde, amène-la ta balle, je l'attrape. C'est quoi qui va se passer, tu penses?
Tu vas frapper.
Ben, tu vas l'attraper. Ben, si c'est pour l'attraper ou pour la frapper, c'est pareil. Ouais. Mais c'est tout simplement ça. C'est tout simplement de se préparer aussi en fonction d'être confiant. Fait que la confiance, ben, pour en avoir, ben, ça prend de l'entraînement, puis de la répétition, de la pratique.
Ouais.
Fait que la pratique, ça fait grossir notre confiance. Attends. Théo, papa, il fait un podcast.
C'est les imprévus d'un podcast.
OK.
C'est la joie d'avoir des enfants.
Hey, fermez la porte du garage, là. Annie! Bon, sérieusement, là, ça, c'est la beauté du confinement avec les enfants. Ça fait maintenant 3 mois qu'on essaie des fois d'avoir des conversations, même des entrevues podcast de même, et à chaque fois, ça arrive. C'est encore arrivé.
C'est pas grave.
Non, écoute, c'est quand même un grand plaisir. On les adore.
C'est du temps de qualité. Mais non, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est tellement vrai que la confiance, on l'oublie tellement. Mais tu sais, je pense que c'était Yogi Berra qui avait dit que le baseball était 80% mental, 20% physique. C'est carrément ça. Là. C'est que le baseball, on l'oublie. Les gens, oui, c'est sûr, tu as besoin d'un certain talent, des notions techniques, tout ça, ça c'est certain. Mais tu as bien beau avoir tout ça, toutes les meilleures notions, les meilleurs entraîneurs sur terre, puis la physique au bout. Mais si dans ta tête, tu ne l'as pas, ça ne marchera jamais. Là. C'est impossible. Puis, tu sais, quand tu es sur la butte, moi, je suis un lanceur, puis quand tu es sur la butte, puis que tu sais, tu es confiant de tes moyens, puis tu sais que tu vas y arriver. Là. Petite anecdote, là, mais en fin de semaine, j'ai eu une invitation pour jouer senior élite. Je n'avais jamais joué élite de ma vie. C'était un peu raison, là, mais c'était vraiment lanceur. Je suis rendu à 28 ans, je n'ai jamais joué élite de ma vie. Je joue depuis 5-6 ans dans le A pour le plaisir avec des chums. Puis là, j'ai une invitation élite. Je ne me suis pas demandé pendant 2 secondes, je suis capable. Oui, je vais pogner l'invitation, puis on va avoir du fun, puis je vais surprendre le monde là-bas. Là. Je n'ai pas une fastball comme eux autres. J'ai été selon ma force à moi, c'est ma courbe, c'est mes balles à effet, ma balle à bouger, puis j'ai fini de là en une manche lancée, 2 strikeouts, aucun coup sûr, aucun point. Tu sais, je m'en suis tiré, mais j'étais gonflé à bloc, j'étais confiant sur le monticule, puis j'étais sûr que j'étais capable de dépasser dans le mythe, malgré qu'il était clairement plus fort que moi l'autre bord. Mais c'est la confiance que tu dégages qui va te permettre de réaliser ça.
Puis veux-tu te dire que je vais te dire quelque chose que l'association des joueurs de baseball n'aimeront peut-être pas entendre, là. Mais moi, je pense qu'il y a des contrats à long terme dans un sport comme le baseball ne devrait jamais exister. Non. Alors, il y a des joueurs qui vont te donner des résultats comme Mike Trout, qui sont des exceptions à la règle, là, avec une constance impossible.
Ah, ouais.
Et la plupart vont avoir des hauts puis des bas. Puis, il y a certains pour qui le haut va arriver très, très haut, puis pour qui le bas va rester très longtemps. C'est un sport de même, c'est un sport de mental breakdown.
Ah, ouais.
Puis, à un moment donné, ton breakdown, là, il peut durer 1 an, il peut durer 2 ans. Et c'est pourquoi je pense que le baseball ne devrait pas avoir de contrat de 5-10 ans. Ça devrait être des contrats plus courts, tu sais, 2-3 ans. Parce que c'est ça. Je trouve que c'est un sport que tu as beau avoir toute la physique, comme tu l'as dit, mais le cerveau, c'est quelque chose qui peut se perdre parfois même plus facilement et plus rapidement que le physique.
C'est tellement vrai. Ça, on en parlait dans l'épisode qui t'a précédé avec Josué Pelé, puis c'est vraiment ça qu'il disait, c'est que tu as bien beau avoir tout le talent du monde, mais à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, mais tu avais une bonne moyenne, mettons, l'année d'avant à 350 au bâton, puis tu dominais la ligue. L'année d'après, c'était dans une léthargie de 15 matchs sans coup sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit tout le monde critique. Puis tout le monde, là, tu vois ses réseaux sociaux, il est pourri, il n'est plus dedans, il a eu son gros contrat, il ne veut plus rien savoir. Mais avant tout, c'est des humains comme toi, comme moi, comme n'importe qui nous écoute. Puis le soir, quand ils se couchent, quand il y a 0-4, ils ont une pression énorme sur les épaules à chaque jour de performer, puis tu n'as pas droit à un relâchement. Que c'est normal que pour eux aussi, ça les affecte. Puis à un moment donné, ça te joue dans la tête, qu'on le veut ou non, quand même bien que tu as tout le talent du monde.
Moi, si j'étais eux autres, j'accepterais des moins gros salaires pour avoir moins de pression.
Oui, ça c'est sûr, ça vient avec la pression. Non, tu gagnes cher.
Mais Martin Brodeur, tu sais. Martin Brodeur a tellement été fidèle à son équipe. Ça, moi, personnellement, je trouve ça dommage d'ailleurs que cette fidélité-là n'existe plus. Sidney Crosby, chapeau à Sidney Crosby.
C'est un des derniers, vraiment
encore preuve d'une grande fidélité envers l'organisation des Pingouins.
Ah, ouais.
Mais cette fidélité-là, c'est quelque chose que je pense que les fans apprécient puis qui pourrait probablement permettre à plusieurs, là, pour quelques millions de moins, de vivre beaucoup moins de stress parce que les partisans vont l'apprécier, cette réduction-là, par amour pour la ville.
Ouais.
Et moi, si j'avais eu une carrière dans la MLB, ça aurait été probablement une des décisions que je l'aurais pris en fonction d'une ville que j'aime. Puis j'aurais accepté probablement une diminution de, écoute, je vais te dire un chiffre, là, 1 million. Là.
Une petite diminution d'un million.
Que parce que tu as raison que leur pression, quand ils gagnent des gros montants, c'est sûr, c'est incroyable la pression que ces gars-là, ils vivent. Puis, c'est sûr que, comme je t'ai dit, le mental breakdown, à un moment donné, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis...
Ah non. T'sais, même Carey Price, on l'oublie souvent, là, mais c'est pas évident pour lui non plus. Il joue dans le plus gros marché du hockey dans la Ligue nationale à Montréal. Ça critique énormément. Puis tu sais, il y a eu des bonnes saisons, il y a eu des grosses blessures, il y a eu un gros contrat qui est arrivé en même temps. La pression est toujours à son top. Mais on dirait que les gens oublient la qualité de ce gardien de but-là. Puis à la minute qu'il va s'en aller, ben peut-être qu'on va s'en ennuyer. Puis pas peut-être, on va s'en ennuyer, puis on va le savoir quand il va être ailleurs.
Je pense que le problème des Canadiens, c'est au niveau de la masse salariale, tu sais, parce qu'on a vu dans le passé que, c'est plus vraiment les gardiens de but nécessairement qui vont aller chercher la Coupe Stanley. Tu sais, il y a des équipes comme les Penguins de Pittsburgh que oui, Marc-André Fleury est excellent. Tu sais, Marc-André a gagné des Coupes Stanley, mais tu sais, c'était Sidney Crosby, c'était Malkin. Tu sais, c'est ces gars-là en avant qui manquent malheureusement aux Canadiens. Puis est-ce que c'est une faute de masse salariale? Peut-être pas nécessairement non plus parce qu'il nous en reste dans le Canadien à défendre.
Il reste 9 millions qui traînent depuis 2 ans.
T'sais, c'est quoi qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai tout le temps reproché aux Canadiens. Puis, tu sais, tu vois, Carey Price, je suis content de l'avoir dans l'équipe, mais c'est exactement le moule que les Canadiens veulent avoir, c'est-à-dire un gars
défensif.
Qui est underground. Il ne dit pas un mot plus haut que l'autre.
Ça, c'est vrai.
Il n'est pas extroverti. Il n'essaye pas de faire passer son nom en haut de l'équipe. Puis, je pense que malheureusement, tant aussi longtemps que les Canadiens s'entêtent à vouloir avoir des gars qui font passer toujours l'équipe avant eux, ben malheureusement, ça l'empêche des étoiles de briller. Tu sais.
Puis exactement.
Le basketball a permis aux joueurs de devenir des vedettes par-dessus l'équipe. Puis on le voit très bien dans un sport qui est en santé comme le basketball, puis où est-ce que les joueurs signent des gros contrats avec des compagnies de souliers. Écoute, c'est gros le basketball pour ça. Puis je trouve que les spectateurs, eux autres, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent aimer les joueurs. L'équipe, là, tu sais, pour nous autres, l'équipe, là, c'est bien beau, mais ça serait facile de changer d'allégeance d'équipe quand que notre joueur préféré est rendu ailleurs. Tu sais, moi, personnellement, le Canadien de Montréal, enlève-moi Brendan Gallagher demain, là.
Bon, tu sais,
il y a bien des chances que je commence à même plus les regarder, là.
Ah, c'est un des bons qu'on a travaillant puis qui inspire les jeunes aussi parce qu'il est tout petit. Puis, tu sais, un jeune joueur qui veut vraiment un moule comme lui, là, c'est Brendan Gallagher, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'inspirer de ce gars-là pour son éthique de travail aussi. Là, c'est incroyable.
Moi, sérieusement, c'est le joueur. C'est lui qui fait que je regarde encore les matchs puis que les Canadiens puissent trouver leur petit moment pour m'inspirer. C'est à travers un petit guerrier comme Brendan Gallagher. Moi, c'est du hockey comme ça que j'aime. Moi, j'aime des joueurs comme lui. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis commissaire de la Ligue nord-américaine. On en a plusieurs dans son style. On a des vrais guerriers de la glace. Puis on vraiment des joueurs qui se dévouent. Puis, tu sais, des gars qui viennent... Tu sais, je te parlais d'accepter des réductions de salaire puis de jouer par passion, là, si on veut. Là. Mais, tu sais, c'est des gars qui avaient des carrières aux États-Unis, tu sais, qui, à un moment donné, ils étaient en fin de carrière pour la plupart, mais... T'sais, c'est des gars qui ne gagnent pas nécessairement les gros montants. Là. On est loin de la Ligue nationale, là, mais c'est un bon montant quand même. Là, je veux dire, pour une ligue provinciale, on offre un bon salaire, mais ça reste qu'ils viennent, ils mettent leur trip sur la glace, ils se dévouent à chaque game. Je prends des gars comme... Je vais nommer un exemple, mais il y en a plusieurs. Là, mais il y en a un particulièrement, d'ailleurs, qui a gagné là, le prix du... Le nom du prix m'échappe, Colin, ça fait exprès, mais le joueur le plus dévoué, je pense, si je ne me trompe pas, et c'est ça, le leadership. Là. Mais tu sais, un gars comme Jean-Philippe Chabot, qui a joué à Gatineau à l'époque, c'est incroyable. Le gars, il peut finir la game avec des côtes cassées. Il finit sa game, les deux yeux au beurre noir, il va finir sa game. Mais moi, c'est plate à dire parce qu'en même temps, tu ne veux pas que personne se blesse trop non plus dans l'histoire, mais. Voir des gars comme ça, moi, pour toutes les épreuves de la vie, comme celle-ci qu'on vit présentement avec le COVID, qui est une épreuve qu'on sent tout qu'on a mangé un coup sur le bord de la gueule, tu sais. On va se le dire comme ça, là.
Une bonne claque.
mais tu sais, il faut se relever, il faut persévérer, il faut essayer de rester debout, puis trouver des façons. Puis, tu sais, ces gars-là, ben, quand ils nous le démontrent comme ça sur une glace, au sens propre, au sens physique, ben, je pense que c'est des images qui peuvent juste nous inspirer après ça au sens plus humain de la vie, au sens de nos émotions, de nos épreuves. Tu sais, on fonce, on se relève, puis let's go, on s'en va à gaz. C'est comme ça que j'ai toujours entrepris mes projets, puis je pense que c'est la meilleure façon de le faire.
Tellement. Puis écoute, tu m'ouvres la porte tout grande, mais on va en parler de la Ligue nord-américaine de hockey parce que je dois avouer que je n'étais même pas au courant que c'était toi qui étais le commissaire. C'est une ligue que je connais quand même bien. On a eu également un court laps de temps, les Pétroliers à Saint-Jérôme, puis ça a été une expérience, je pourrais dire, marquante dans tous les sens. C'est une ligue qui est quand même, qu'on le veuille ou non, associée à de la bagarre. C'est une ligue qui est très physique, qui est très... anciennement, c'était une ligue de goon, on va se le dire. C'était vraiment une ligue qui était faite pour des gars qui sortaient des fois de la Ligue nationale. On a eu des...
Donc, il y a eu deux générations à notre ligue. Disons-le,
ouais, c'est ça.
La deuxième génération.
On a entendu ce mot-là aussi.
On n'a pas renié nos racines complètement. On n'a pas annulé le côté bagarre, le côté, mettons, un peu plus peut-être spectacle avec les partisans, dans le sens où il y a peut-être un... Tu sais, j'ai toujours dit, je pense que... Quand on en arrive comme ça, autant avec les quatre chevaliers, si on a différencié notre produit de la Major League Baseball, je pense que la chose qu'on peut dire le plus, premièrement, outre le prix que ça coûte pour venir nous voir, mais c'est la proximité que tu peux avoir avec les joueurs. Ouais. C'est ça qui est la force des chevaliers. Puis les petits gars nous voient à la télévision, mais quand ils viennent nous voir à leur terrain local, ben ils sont à côté de nous autres, puis on lui parle, puis ils prennent des photos, puis on leur signe un chandail, tu sais, mais c'est cette proximité-là aussi, la Ligue nord-américaine, tu sais, de pouvoir aller à un aréna, même de pouvoir crier à des joueurs, tu sais. Puis, je dois te dire, franchement, tu sais, la plupart des spectateurs, ils savent là, que tu ne peux pas aller dans la vie personnelle des joueurs. Il y en a tout le temps des plus imbéciles que d'autres qui vont aller s'attaquer à la vie privée. Puis ça, c'est bien dit là, au niveau de la Ligue que nos gars de sécurité qui sont en place ne peuvent... Tu sais, les spectateurs ne peuvent pas se rendre jusque-là. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'adore de la Ligue nord-américaine, puis qu'est-ce que j'ai toujours adoré, ça a toujours été son côté électrisant de rentrer dans un aréna de la Ligue nord-américaine. C'est comme
unique.
Un show rock.
Oui.
Si tu rentres là, tu es comme dans un show rock. Je te dirais qu'il y a moins de monde qu'au Centre Bell, mais je me demande si je ne suis pas plus énervé. Quand je rentre là, on dirait qu'il y a tout le temps un groupe de partisans, des hardcore fans de l'équipe qui sont plus turbulents puis qui veulent que leur équipe gagne.
Ça me rappelle les Chiefs de Laval.
mais moi, j'aime ça, ce côté-là. Ah, je pense que les gens aiment ça. Les gens aiment ça tant que c'est fait dans... Tu sais, il y a une barrière à ne pas franchir, mais il y a un cadre qui peut être tout simplement agréable et divertissant à être un spectateur turbulent.
Ouais.
Tu peux contribuer au succès de l'événement en étant un spectateur turbulent. Puis on en a quelques-uns d'ailleurs qui en sont de très bons exemples dans notre ligue. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, quand je suis arrivé dans la Ligue nord-américaine, j'ai tout simplement aimé le produit qui ressemblait beaucoup un peu aux quatre chevaliers, aussi de par le fait que bon, tous les marchés de la Ligue nord-américaine, c'est des villes que j'ai fait moi-même avec les quatre chevaliers, où est-ce qu'on a, c'est Rivière-du-Loup, je pense qu'on y était à quatre reprises, Jonquière, pareil, quatre reprises, Thetford Mines, puis la Beauce, bon, on est souvent dans cette région-là. Sorel, on y a été trois fois. Pareil pour Laval, on a joué là. Fait que, dans le fond, c'était tous des marchés que je voyais très bien, puis particulièrement en région. Les gens sont fiers d'avoir du calibre de hockey qui se rapproche vraiment là, de la, je dirais pas de la Ligue nationale nécessairement, mais de la Ligue américaine.
Ouais.
Fait que, quand tu es capable d'offrir ce produit-là à Jonquière, à Rivière-du-Loup, à Saint-Georges-de-Beauce, à Thetford Mines, ces gens-là, c'est formidable pour eux. Je trouve ça même exceptionnel pour eux d'avoir ça. Puis là, bon, ben, tu as des endroits comme Sorel, qui est une ville que j'ai toujours dit. Sorel, c'est comme un petit Montréal. Il y a son port, Sorel a quelque...
Oups, attends un peu, on t'a perdu, Renaud, des petites secondes. Petit pépin technique de Zoom, c'est vraiment génial. Oui, désolé, un petit pépin technique de Zoom. Vive la connexion instable de Zoom. Non, ça, on parlait, dans le fond, tu trouvais que Sorel, c'était comme un mini Montréal avec son port et tout.
Ouais, mais c'est comme un mini. Il y a plusieurs villes de même au Québec. Que c'est comme des tu sais, à eux seuls, ils ont leur journal, ils ont leur propre station de radio, leur propre station de télé. Tu sais, Sorel, vraiment, ça marche très, très bien. D'ailleurs, l'équipe des Éperviers là-bas, le hockey à Sorel, est en pleine santé.
Un gros club.
Ouais, vraiment, vraiment. Ça fait plusieurs fois là, qu'ils gagnaient la coupe. Là. Fait que oui, il y a une effervescence là, qui s'est bâtie au fil du temps là-bas. Puis, Laval qui a été probablement un des gros défis. Je pensais même pas que Laval allait pouvoir remplir comme ça une moyenne d'environ 1300-1400 spectateurs par
c'est
match.
C'est ça encore dans le vieux Colisée dans Saint-François dans Laval? Ah ouais.
Le
House of Pain.
Il y a du monde qui ne voulait pas que le Yankee Stadium soit démoli à l'époque pour le construire le nouveau. Moi, je pense que si on parle de la Ligue nord-américaine, aller mettre les pieds dans le House of Pain, ça fait partie un peu de l'histoire. Tu peux,
c'est incroyable.
Il y a une odeur qui sent genre toute l'époque qui passe devant toi. Là,
tellement. Ben. J'ai joué une fois, là, je m'en rappelle encore de l'odeur de la chambre de joueur qui est grosse comme ma main, faite sur le long. Puis l'odeur du bois, tu rentres là, tu vois l'espèce de tableau indicateur qui est spécial. Les estrades, la couleur, la forme du toit aussi. Il y a de quoi d'unique dans ce building-là. J'en parle, j'en ai frisson. C'est vraiment... Là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Ligue nord-américaine, ça reste quand même que c'est un endroit que tu rentres là, impossible que tu ne passes pas un bon moment en sortant de l'aréna. C'est impossible. C'est tellement une ambiance électrisante, comme tu disais. Mais tu sais, tu assistes à un excellent show parce que ça reste que c'est un spectacle que les joueurs donnent sur la glace qui est vraiment exceptionnel. Puis en plus, ben, tu as un calibre que tu as des gars, comme on dit, oui, on en parlait qu'autrefois, il y avait beaucoup de goons dans cette ligue-là. Mais oui, le côté, je peux dire... robustesse est restée, mais il y a encore beaucoup plus de rapidité. Tu sais, j'ai vu des Yannick Riendo aussi qui avait joué dans votre ligue, qui était anciennement...
Mais Riendo joue encore dans notre ligue.
Joue encore dans la ligue.
C'est toujours dans les meilleurs pointeurs à chaque année.
C'est ça. Puis,
oui.
On pense à Yannick Riendo avec les Voltigeurs de Drummondville dans le temps dans la LGMQ, puis il avait vraiment... Écoute, il dominait avec Danny Massé. C'était vraiment le duo par excellence.
Étienne Brodeur qui a dominé aussi.
C'est ça, des gars qui ont des skills.
Yannick Tiffu, un de nos joueurs qui avait publié l'autre jour un article, qui trouvait ça vraiment cool. Il y a un match qu'il avait joué junior majeur contre Sidney Crosby, puis il avait eu le dessus sur Sidney Crosby. Je pense qu'il avait fait 4 points, puis Crosby en avait fait 2, puis ça avait fini avec Tiffu 4, Crosby 2. Donc, lui, il n'a pas fait de la Ligue nationale pour des raisons X qui sont assurément pas ses mains, parce que c'est un gars qui a des excellentes mains. Mais tu sais, c'est quand même pas rien d'avoir des joueurs comme ça qui ont fait leur junior majeur avec Sidney Crosby, qui ont fait des matchs contre Sidney Crosby, qui ont eu le dessus sur la plus grande vedette du hockey de notre génération. Quand on dit qu'on offre un calibre de jeu assez spectaculaire, des articles comme celle-là, ça en démontre qu'on a des joueurs de ce type de calibre-là. Puis c'est pour ça que je me suis senti aussi à l'aise là, de m'associer à la Ligue nord-américaine. Je ne te cacherai pas que je suivais ça quand même depuis un certain temps. Mm-hmm. Je l'ai suivi à l'époque où j'étais même beaucoup plus robuste, on s'entend. Là, j'ai commencé beaucoup plus jeune, mais moi, au niveau des quatre chevaliers, m'associer à ça, c'était pas nécessairement ce qui s'apparentait le mieux un à l'autre.
Ouais. J'ai resté surpris quand même là, quand je t'ai vu t'associer à ça. J'ai dit, je voulais comprendre les motifs derrière ça.
Mais les propriétaires sont rendus là dans le sens où est-ce qu'eux autres, moi, quand j'ai vu un peu eux autres, où est-ce qu'ils voulaient s'en aller avec ça, puis leur nouvelle façon un peu de gérer, tu sais, écoute, je ne cacherai pas, il y a déjà eu plus de, disons, de monde qui avait des drôles d'entourage à l'époque.
Ça a coupé pendant une seconde. On parlait de la relation avec certains propriétaires qui étaient... il y en avait des drôles d'histoire des années 90.
Ouais, ben c'est ça. Puis là, tu vois, quand je suis arrivé là, j'ai vu vraiment que tout simplement tous les propriétaires, tu sais, c'était des gens comme qui avaient des entreprises, tu sais, puis qui ont une histoire de famille, puis c'est du bon monde, je pense. À Laval, tu sais, Robin Bélanger de chez Gaz Mazout Bélanger.
Oui.
Une belle entreprise familiale qui est justement dans ta région.
J'ai déjà parlé avec Robin. Il était à Mirabel à côté de chez nous. Là.
C'est vraiment... Je pense qu'il n'est pas plus fin que Robin. Il est tellement tranquille, il est doux. Après ça, tu prends des gars comme Stéphane Rouleau, qui est un vendeur d'assurance à Saint-Georges-de-Beauce, que lui, il a décidé de partir avec un groupe. Je pense qu'ils sont 7 à 8 associés là-bas. Ils ont décidé de partir, eux autres, un organisme à but non lucratif pour leur faire leur équipe. Puis vraiment, là-bas, c'est comme une coopérative, si on veut. Là, ils sont plusieurs. Puis ils mettent chacun la main à la pâte. Puis ils le font juste pour un peu plaisir de rouler une équipe. Puis de s'amuser comme on pourrait le faire à jouer à NHL au PlayStation en mode franchise. Eux autres, c'est leur dada. Écoute, ils ont du fun. Ils sont 5-6 là-dedans. Puis,
vivent la vie d'un DG.
Ah, ils s'installent au match. Puis ils crient des Australiens. Ils ont du fun. Écoute, c'est comme pareil pour, mettons, Rivière-du-Loup. C'est dans le fond, celle qui est propriétaire de ça. Elle est en charge de la station. Électrice de nouvelles. Dans le fond, éco-propriétaire de la station à TVA. Jusqu'au propriétaire. Je pense qu'elle était avec sa famille. Dans le fond, son père là-dedans. Mais c'est elle qui est en charge de la station de TVA du bas du fleuve. Fait que c'est ça. Fait que, c'est vraiment tout du monde avec qui je m'entends vraiment bien, du monde simple. On n'est pas, comme je te dis, c'est plus l'entourage là, des années 90 ou est-ce que je te dirais que c'était plus rock'n'roll là, dans ce temps-là. Je suis pas sûr que j'en aurais été le commissaire et j'aurais mixé ça avec les quatre chevaliers, mais comme je te dis, dans le contexte-là, avec plusieurs joueurs aussi que je connaissais déjà, puis des gars que je trouvais qui méritaient de faire parler d'eux, qui méritaient que la Ligue soit en santé, que je puisse essayer peut-être de mettre ma petite touche là-dedans pour faire grossir ça. Puis là, tu vois, j'étais arrivé à ma première année, on a amélioré le concept de la web télé, on a commencé à offrir plus de vidéos sur Internet, des résumés de matchs, des top 5 des jeux de la semaine. Mais tu sais, c'était ça mon but, c'était d'essayer aussi là, de dire oui, c'est beau les bagarres, oui, c'est beau qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui drop les gants, il y a quelqu'un qui va le filmer et qui va le mettre sur Internet, mais en même temps, c'est pas ça qui nous rapporte des matchs en série, puis c'est pas ça qui fait que les équipes vont s'améliorer puis offrir un spectacle au niveau de la rapidité puis des jeux spectaculaires. Fait que tu sais, c'est, ça en prend des gars de même, mais il faut les motiver, il faut qu'ils voient que leur implication est reconnue par la Ligue. Puis dans ce cas-là, quand on regardait à l'époque, ben malheureusement, ce qui restait de...
Désolé, vraiment un petit problème avec la connexion, je pense bien. Il y a un petit imprévu, désolé. Le téléphone de Renault a surchauffé, donc on va essayer de faire ça rapidement pour éviter que ça ressurchauffe à nouveau. Donc,
il fait trop soleil dans cette pièce-là, je m'excuse, mais...
Il n'y a pas de trouble, on comprend ça,
c'est
Renault.
C'est pas beau dans l'ombre, je me trouve plus beau au soleil, on voit pas
bien. Il n'y a pas de problème. Écoute, continue ton point, là, il n'y a pas de problème.
Non, mais je me rappelle plus, j'étais rendu exactement, mais c'est juste ça, dans le fond, ce que je parlais, c'était comme quoi que la Ligue nord-américaine, avec cette année, on est arrivé avec... une meilleure gestion de nos vidéos par rapport aux beaux jeux. T'sais, comme je disais, on faisait des top 5. Fait que c'est sûr que ça va aider à aller chercher des bons joueurs et à leur démontrer qu'on respecte le travail des bons joueurs. Parce que malheureusement, les vidéos qui se retrouvaient de la Ligue, c'est souvent bon, tout les bagarres. Ouais. Puis, avec la Ligue puis notre web télé, le tv.lnh.com qui a couvert tous les matchs de la saison, dans le fond, on avait un abonnement payant. On avait la chance d'avoir les images de ça. Puis en collaboration avec cette web télé-là, bien, on a décidé de faire extraire tous les plus beaux jeux à chaque semaine. Je pense que c'est une belle amélioration. C'est une belle amélioration qu'on a faite. Puis c'est surtout aussi dans l'optique d'aller éventuellement séduire aussi des bons joueurs, des nouveaux joueurs qui vont prendre notre ligue au sérieux comme étant aussi une ligue qui souhaite démontrer la qualité du spectacle au niveau des buts, au niveau des échanges, les passes et tout. Je suis très, très fier de ce qu'on a commencé à construire ensemble. On avait une équipe d'expansion qui s'emmenait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Malheureusement, le COVID a fait qu'on va repousser ça d'un an, mais j'ai quand même bien confiance là, avec la ville. On avait ouvert les portes, puis avec notre investisseur, il était prêt à faire les investissements que ça prenait là, pour démarrer l'équipe. Donc, on va attendre à 2021, malheureusement, mais je suis convaincu que ça va voir le jour.
Oui, c'est un bon marché, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est très populaire, surtout en région, la Ligue nord-américaine. Donc, c'est un bon coin qui risque de bien marcher,
je
bien fonctionner.
Je ne sais pas si Saint-Jean-sur-Richelieu veut se faire appeler région.
Je sais pas. Non, mais la Montérégie, on va dire, ça paraît mieux de même. Là, mais c'est une région qui est quand même plus éloignée de Montréal.
Moi, tant qu'à moi, la mentalité de région est un compliment. Quand je dis « Ah, là-bas, il y a une mentalité de région »,
mais j'habite en région, moi. Moi, c'est pas une insulte.
Non, mais moi, personnellement, regarde, avec les quatre chevaliers, il y a combien de fois que je dis écoute, je pense que j'aimerais mieux faire 8 heures de char que de jouer à Montréal.
Exact. Puis,
t'as coupé?
Non, je t'entends bien.
OK, parce que moi, dans mon silence, tu sais, des fois, genre, on joue à Montréal, tu sais, juste te donner un exemple. C'est pas qu'on n'aime pas ça nécessairement, jouer à Montréal. Tu sais, c'est la grosse ville, tant mieux, on arrive là, mais en réalité, Le feeling du spectacle puis la réaction du public. Tu sais, on dirait que Montréal, justement, le fait que les gens ne se connaissent pas nécessairement, c'est moins convivial. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens extériorisent moins le rire dans les estrades.
Ouais.
Fait qu'à chaque fois qu'on joue à Montréal,
c'est pas pareil.
Tu sens que le côté de se laisser aller comme des amis, comme un gros party, comme une grande fête, c'est pas ça. T'sais, c'est vraiment plus... c'est plus protocolaire, puis on s'en permet des fois un peu moins, là, justement. Là.
Exact. Puis on va en parler de Montréal, parce que moi, en fait, je t'ai connu à Montréal. J'avais jamais vu les quatre chevaliers avant, puis j'ai été photographe dans votre fameux match contre Vladimir Guerrero, père, pas le fils, mais le père, qui était venu à Montréal. Son équipe qui était bâtie pour jouer contre vous. C'était exceptionnel comme moment, sincèrement. Il y avait une ambiance électrisante des estrades. Les partisans avaient bien répondu à l'appel. Je pense qu'il y avait beaucoup de nostalgiques des expos aussi qui voulaient revivre une certaine soirée de balle en plein centre-ville de Montréal, au parc Gary Carter en plus. Il y avait quoi de spécial dans l'air? Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment unique cette journée-là. C'était une belle fête, puis écoute, il faisait beau, il faisait chaud, tout était parfait, sincèrement. Comment toi, tu l'as vécu, ce fameux match contre Vladimir?
Je l'ai vécu avec l'Expo Fest. Dans le fond, c'est lui qui m'a demandé de le coproduire. Je pense qu'on était un peu à dernière minute là-dedans. Il avait déjà prévu d'aller à Trois-Rivières, d'aller à Québec. Puis là, tu as mon ami Perry Giannis de l'Expo Fest. Ah
oui, que je salue Perry Renaud, d'ailleurs.
Renaud, il dit c'est un scandale, Renaud. Il dit là, Vlad, il va aller à Trois-Rivières, il va aller à Québec. Mais il ne viendra pas nous voir à Montréal pour faire de quoi, pour faire de quoi. Tu sais, puis c'est pas nécessairement que c'était dans le cadre des capitales, dans le cadre des Aigles de Trois-Rivières, d'aller au stade. Tu sais, c'était plus. C'est une association logique, mais là, à Montréal, on n'a rien. Tu sais, y a pas, non, de,
pas dans le stade olympique quand même.
Fait qu'à une semaine d'avis, une semaine et demie, je pense pas plus, on a décidé qu'on allait convaincre Vlad de venir à Montréal. Je vais te faire un secret. Je vais te dire un secret. Là, ben, premièrement, bon, Vlad, disons que ça a été complètement différent des deux autres expériences. Parce qu'à Québec et à Trois-Rivières, il y avait juste à se présenter, signer quelques autographes. Le tour était joué. Là, on a pris le temps vraiment, tu sais, de l'inclure dans une équipe. J'y avais fait un rap avec les frères Palette. On a réussi à l'amener sur le terrain. On y a fait frapper ce qui est encore à ce jour son dernier circuit à Montréal.
C'est vrai, ça. C'est autres, puis, à la toute fin, autres, Vladimir a frappé un circuit, puis il n'a pas perdu son élan.
Non, mais j'espère qu'il ne fera pas d'autres circuits à Montréal. Je veux encore continuer à me vanter de tout ça. On a tous été des fans des expos, puis moi, quand Vlad était là, j'avais, je pense, 16-17 ans environ quand il a quitté Montréal. Fait que ça veut dire que quand il a commencé, j'étais... Écoute, je vais avoir quoi. Il a joué combien d'années, Vladimir, exactement?
J'ai une bonne mémoire, commencé 96-97, peut-être recru, mais joué permanent, peut-être 98-99, puis il a fini 2003.
2003, c'est ça, 2003, exact. Vlad a quand même été mon joueur préféré pendant mettons,
moi aussi. J'étais plus jeune que toi, mais je m'en rappelle.
Fait que ça a été spécial. C'est sûr que, écoute, pour moi, ça a été vraiment. C'était comme un peu. Inimaginable si je reviens dans ma tête à 20 ans, assis dans les gradins du stade olympique à regarder mon idole assis au champ droit juste pour être sûr que je suis proche de Vlad. Pour moi, le billet le moins cher était le meilleur.
Les bleachers avec un hot dog.
J'allais voir ça quand les Cubs venaient à Montréal. Fait que j'avais Sammy Sosa. J'avais Vladimir Guerrero dans mon champ. Écoute, ça a été tellement des beaux souvenirs pour moi, le stade olympique puis les expos de Montréal. D'être rendu là, tu sais, d'avoir Vlad avec moi, puis de faire le show, puis de l'honorer d'une certaine façon, puis que j'avais comme été choisi pour être celui qui allait être le maître de cérémonie de ce grand retour-là, là, de Vladimir à Montréal. Écoute, ça a été un gros moment là, pour moi aussi là, dans ma vie. Là.
C'était spécial, ça a été parce que je salue en fait l'Expo Fest parce que je suis leur photographe officiel, puis ça fait déjà plus de 2-3 ans qu'on collabore ensemble. Puis quand Perry m'a parlé de cette journée-là, je n'étais pas disponible. J'ai dit, moi, être disponible, on va trouver une façon de l'être. Là. C'était Vladimir au centre-ville un vendredi soir. Là, tu peux pas manquer ça. Puis avec
incroyable.
Les quatre chevaliers en plus, on pensait pas qu'il allait jouer. Sincèrement, moi, je pensais que c'était plus à titre de figure protocolaire, puis qu'il allait juste saluer la foule par tourner dans le dugout, puis t'es pas supposé signer d'autographe.
Nous autres non plus, on ne savait pas qu'il allait jouer. C'était, il avait pas rien promis. Écoute, tu sais ce que je vais te dire, il a même dit après le match, il a dit à Perry, ça a vraiment été ma plus belle soirée que j'ai eue. Il dit, des trois,
ça
là,
paraît, il voulait plus partir. il signait tout le monde.
J'ai adoré ça, il riait, je faisais des jokes, je faisais des stepettes, puis je le voyais rire de bon cœur.
Ouais.
Je savais, là, en dedans de moi, là, ce que ça me faisait, tu sais.
C'était spécial.
c'était lui, mon. Moi, c'était lui que j'allais voir au stade. Puis là, dans ce cadre-là, j'étais comme mis un peu plus en lumière parce que ouais. Vlad, bon, il voulait pas non plus être 100% impliqué tout le temps. Fait que bref, ouais. J'ai l'idée de l'animation. Puis de voir Vlad assis qui me regarde puis qui rit de mes jokes, là, oh là là, en
ah ouais. Ah ouais, sincèrement, c'était un moment exceptionnel qu'on peut encore revoir aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ceux qui veulent revoir les clips, c'est disponible sur YouTube ou en photo. Si vous voulez aller voir ma page Facebook, Antoine Meunier, photographe sportif, il y a certainement... Oups, attends un peu.
Faut que je bouge. Faut que je bouge. Mon cellulaire, il est comme dans le soleil avec la...
Ah, il n'y a pas de trouble. J'aime mieux que tu bouges que ça bug.
Ben, veux-tu te montre quelque chose?
Ouais, vas-y donc.
Avec mon père et les anciens quatre chevaliers à l'époque, parce que mon père a fait 26 ans avec les anciens quatre chevaliers à l'époque, moi j'ai été le bad boy de 7 ans à 17 ans. Moi j'ai suivi, j'étais le bad boy.
Fait que c'est de là, ça a parti.
C'est comme ça que la passion des chevaliers est arrivée dans ma vie, moi. T'sais, pis,
wow.
Regarde, t'es ici, regarde, dans le fond, t'as mon père ici, juste là, qui a sa plaque des quatre chevaliers,
okay.
Qui est une plaque de Softball Québec. Fait que là, ici, t'as la plaque aussi un peu plus comme avec mon père qui est dessus. Qui est jusque-là, ici, jusque-là. Mais bref, j'ai ma plaque ici du National Baseball Hall of Fame de Cooperstown.
Oui, c'est les quatre chevaliers. C'est ça, je veux savoir, parce que j'ai entendu parler de ça, j'ai-tu rêvé
à
ça?
Je reviens là-dessus, parce que dans le fond, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'était que, avec le fait que j'ai suivi mon père, puis que j'ai fait 10 ans de tournée à ne pas manquer un match, ben là, quand on a été honoré au Stade olympique en 2003, ici...
Non, ben non.
Ben, tu peux voir.
Avec Vladimir.
La balle ici, c'est la balle que Claude Potvin, notre fondateur, avait lancée comme lancé protocolaire.
Hey, c'est
moi,
spécial.
Je suis dans le milieu. Ça, c'est ma face.
Ben oui. le monde est petit, puis quelques années après, c'était toi qui étais sur le terrain avec lui au Stade Gary Carter. Wow.
Exact. Fait que là, tu voulais en revenir à ça ici, effectivement.
Ben ouais, c'est ça. Vas-y.
National Baseball Hall of Fame, c'est dans le fond, c'était au Stade olympique que ça a commencé, quand ils ont honoré Tim Raines pour le National Baseball Hall of Fame à Cooperstown, pour rentrer au temps de la renommée. Et là, il y avait un petit bureau installé. Je vais mettre mon cellulaire dans l'ombre ici, excuse, parce que...
Ah, il n'y a pas de problème, au moins
il y avait c'est ça, il y avait un bureau installé, un petit kiosque installé par le National Baseball Hall of Fame avec des systèmes de Tim Raines. Et là, j'ai mon directeur de marketing, qui est le fils à Tigui Aimont.
Ah oui.
Aussi volubile, aussi verbomoteur que Tigui. c'est mon gars de marketing. Fait que c'est lui qui trouve nos commanditaires, puis il est prêt à. Tu sais, il fait tout pour nous autres. Il est prêt à tout. Il s'en va tout. Il parle de nous autres, là. En bien à tout le monde où est-ce qu'il croise. Puis, lui, il se rappelle d'avoir vécu avec son père, Tigui. Tigui avait rempli, je pense, une année. Il avait fait venir les quatre chevaliers à Thetford Mines, donc l'équipe du Journal de Montréal. On avait eu au-dessus de 15 000 spectateurs. C'est la plus grande foule encore à ce jour. Jean-Marc était là. Jean-Marc avait vu ça pour lui. T'sais, à chaque fois qu'il parle de nous autres, il dit tout le temps, les quatre chevaliers, il dit pour les petits gars, là, il dit, moi, dans mon temps, Colin, il dit, il était meilleur que les Expos de Montréal. Les Expos, ils perdaient. Les quatre chevaliers partaient pas. Pour nous autres, ils disent, c'était plus gros que les expos. Fait que, bref, ce Jean-Marc-là, Jean-Marc Quémont, que je salue, il décide qu'il s'en va au bureau du National Baseball Hall of Fame de Cooperstown. Ben, oui, il dit, ben écoute, moi, là, je vais vous parler d'un projet ici au Québec qui devrait être reconnu par votre département des archives. Jean-Marc, qui est un grand fan de baseball, qui connaît Cooperstown, qui a déjà été à Cooperstown, puis qui sait qu'il n'y a pas juste le département du Hall of Fame, mais il y a aussi le département des archives qui couvrent un peu toute l'histoire de la balle, puis qui met en lumière là, des gens qui ont aidé à contribuer à la passion du baseball. Et là, on a envoyé tout simplement des articles des années 60-70. On avait beaucoup d'articles de journaux. On a envoyé des items, des casquettes, des trucs comme ça qui ont été retenus. Ils nous en ont renvoyé d'autres, mais officiellement, ils nous ont envoyé, c'est ça, cette belle lettre-là que je t'ai montrée.
Oups, ça coupe un peu, Renaud. Oups, on t'entend plus 2 secondes, Renaud. Ça va sûrement revenir.
Le plus grand musée du baseball sur la planète. Ouais.
Oups, excuse, ça a juste, on a juste entendu plus grand musique du baseball. Ici, là, je suis vraiment désolé. Là.
Ah non, il n'y a pas de trouble, mais je vais m'éloigner un peu parce qu'effectivement, c'est trop chaud.
C'est la chaleur, oui. Je pense que c'est la chaleur qui ne t'enlève pas.
Que chaud, fait que c'est ça. Hey, je me souhaite une cage de baseball, là, tu as su.
Oui, ben, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tu as vraiment une vraie cage.
Là, pour l'instant, là, parce que la trampoline, pendant l'été, on n'a pas besoin vraiment de frapper à l'intérieur, là, mais... Wow. Tu fais une cage de baseball dans ma maison.
C'est ton garage, dans le fond, que tu as converti en espace de frappeur carrément pour l'hiver pour t'entraîner.
Ben là, dans le fond, la deuxième partie, c'est mon gym. Ici, c'est comme un peu mon petit c'est mon petit musée. Là. Dans le fond, moi, un de mes joueurs préférés aussi, au Vladimir, parce que bon, Vladimir, comme je t'en parlais, Vladimir est aussi ici avec une belle photo signée de Vlad.
Il ressemble à mon cadre que j'ai en arrière, mais c'est Vlad Junior.
J'ai un de mes joueurs préférés ici encore. Là, tu vas rester surpris, mais tu le reconnais-tu?
Hey, je vois à peine la photo, je peux pas te dire. On dirait Andrés Galarraga. Là, mais... Pete Rose avec les Expos.
Pete Rose.
Ouais, il n'a pas été longtemps avec les Expos. C'est pas son fait marquant.
Mais... ce qui n'est pas son fait marquant, je vais te dire, c'est que nous autres, des quatre chevaliers, il faut que tu comprennes, on joue à fast pitch, OK?
Ah ouais.
Puis le fait qu'on joue à fast pitch, ben, nous autres, les gros élans, genre de vrais gros joueurs qui frappent des bombes, c'est pas ça notre type d'élan. C'est pas comme ça qu'on apprend à frapper parce qu'il faut être plus court et sec. La balle rentre plus vite, le temps de réaction est plus court.
Comme
la balle rentre pas plus vite, mais le lanceur est plus proche. Donc,
oh, oui.
Ton temps. Puis Pete avait ce type d'élan-là qui était un peu moins, là, si je veux y aller dans le fast pitch. J'étais un peu plus un Pete Rose. Je trouve que le baseball est rendu tellement. Comment je te dirais, dénaturé comparé aux époques depuis. On est rendu à ce temps où est-ce que tous les gars s'installent, ils veulent frapper pour leur propre fiche, leur propre show. Les gars de coup de circuit gagnent tellement plus que les gars de coup sûr que ça en est quasiment. C'est quasiment rendu obvious là, qu'il n'y a pas un gars qui va vouloir essayer de devenir un frappeur de petit scratch hit comme ça, overhead. Voilà. Mais en réalité, je trouve que ça a été les belles années du baseball. C'était
il devrait être au temple. C'est pas normal qu'il ne l'ait pas encore. Si je comprends tout ce qui est arrivé, le système de tricherie qu'a fait un coup coach, mais de tricherie encore, là, qui a parié en fait sur un match durant qu'il était coach. Mais de là à le banner, on pense à des gars qui ont pris des stéroïdes, qui vont peut-être aller au temple de la renommée. Barry Bonds, on ne sait pas, mais probablement qu'il va se rendre là un jour. Mais lui, il n'aurait pas le droit d'y aller parce que joueur, il a été clean tout le long de sa carrière, puis plus de 4000 coups sûrs, c'est... C'est un exploit qui ne sera jamais battu.
Ben, d'ailleurs, tu viens de le dire, parce que tu disais qu'il n'a pas resté longtemps à Montréal. Il n'a rien fait de trop, trop spécial à Montréal. Il n'a pas eu le temps nécessairement, mais tu t'oublies. Parce que tu viens millième. De le dire, ce qu'il a fait. 4 millième, il est là.
Oui, c'est exactement.
C'est l'élan du 4 millième.
Wow, OK. Ben, c'est ça, c'est son 4 millième. Non, c'est ici.
Il était à Montréal, le 4 millième coup sûr a été fait ici, à Montréal.
Ouais,
c'est ça. Moi, c'est pour ça que non, je trouve que c'est un bel exemple de... ramener ça à l'essentiel. T'sais, Pete Rose, il nous ramène à l'essentiel. Puis des quatre chevaliers, combien de fois qu'on a eu des matchs difficiles puis qu'il fallait juste penser à mettre le bat dessus. Moi, je pense que je serais capable...
Oui, excusez tout le monde. Le bug est terminé. On revoit Renaud à nouveau.
J'ai des problèmes avec mon téléphone. C'est désagréable. Je suis désolé, mais je suis quand même content de vous parler. Écoute, je trouve que ce que tu fais d'ailleurs, Antoine, là, et on parle beaucoup de moi des quatre chevaliers, mais... T'as développé un bon concept, puis t'as des bons invités.
Je vais en avoir des bons cette semaine avec toi aussi.
J'ai trouvé ça le fun, je trouve ça cool aussi. Tu prends des belles photos. T'es vraiment bien impliqué, je trouve, dans le monde du sport. Tu couvres les bons événements. T'étais avec Derek au coin avant hier ou hier, je crois.
Ouais. Ouais. Ouais, avec Charles, la gang des chums.
Comment qu'elle est, Derek?
Oh boy, ouais, on va en parler un peu de Derek, là, mais non, j'étais content de le voir. Écoute, il a été là, je pense, à chaque jour de son camp d'entraînement, Derek au coin à Boisbriand, en fait, là, donc au parc René-Lévesque. Il y a plein de jeunes avec l'Académie Joël Bouchard aussi qui font comme un partenariat entre les deux. Fait que les jeunes vont jouer le matin au hockey, l'après-midi à la balle. Écoute, c'était des jeunes qui tripaient que j'ai vu. Là, c'était des petits gars qui avaient le goût de jouer à la balle puis qui étaient, hey, écoute, ça s'amuse en chum. Puis Derek, c'est sûr qu'il ne pouvait pas être là c'est 8 heures au gros soleil à 35 degrés tout le temps, mais il est venu. Écoute, moi, j'étais là vendredi, puis je sais qu'il était là les autres jours, habillé en expo avec ses pantalons des expos, son chandail des expos.
Ben oui, ben oui, photos, il était habillé en expo. Ben oui, ben oui,
c'est
ben
ça,
oui,
je vais aller republier sur ma page. Là, c'est ceux qui ne l'ont pas vu, je vais tout publier ça parce que ça a sorti déjà un peu avec la gang des chums, parce que Stéphane Rousseau, que je salue d'ailleurs, qui m'avait invité à prendre des photos pour eux. Donc, c'est ça. Ça a été vraiment un plaisir de voir Derek qui est mine de rien quand même diminué clairement par la maladie, mais qui est impliqué encore très, très très, très impliqué, en fait, au niveau de la société, au niveau des jeunes du baseball québécois, puis il redonne au niveau de ses connaissances. Sincèrement, là, chapeau Derek, puis on est tous avec toi, on est tous avec ta belle organisation pour que ça puisse bien se terminer tout ça, puis qu'on passe à d'autres choses bientôt, puis qu'on revienne au baseball.
yes, j'approuve. J'ai envoyé mes ondes positives aussi. Je salue Derek. Une des raisons pourquoi on est rendu à TVA Sports, d'ailleurs, c'est Derek. Oui. Il nous a entourés avec l'équipe là-bas à l'époque. L'équipe a un peu changé, mais il avait senti qu'on allait avoir une vibe, une belle connexion avec TVA Sports. Il cherchait du nouveau. Nous autres, on était sur l'autre chaîne de sport, là, en les remerciant, là, je vais dire RDS, parce que c'est eux autres qui nous ont fait confiance au début. Puis je les remercie. Oui. Je vais toujours être reconnaissant de ce qu'ils nous ont offert, là, ce qu'ils nous ont donné comme deux belles saisons télé à RDS. Puis c'est ça, dans le fond, je trouvais juste que peut-être que notre relation avec RDS était un peu plus dans un pattern où est-ce qu'il y avait beaucoup d'ancienneté dans ce bureau-là. Il y avait une façon de marcher, puis c'était comme ça. Puis nous autres, on était peut-être jeunes comme compagnie de production. J'ai comme eu une affiche dans mon téléphone qui disait qu'il était chaud. Mais c'est ça, on était jeunes comme compagnie de production. Puis le fait qu'on était jeunes, ben c'est ça, on était peut-être un peu plus en dehors de la norme des fois de ce qu'ils nous demandaient à RDS. Puis c'était comprenable qu'ils le faisaient de même, mais TVA nous ont ouvert un peu plus de possibilités, là, si on veut, dans leur façon d'approcher notre produit. On était en plein développement. Ça faisait juste 2 ans qu'on était à TV. On était arrivé à TVA. C'était notre 3e saison. Puis c'est ça. Puis c'est Derek, vraiment, qui m'a dit que... Il dit, je vais te présenter au monde là-bas. Il dit, d'après moi, il dit probablement que ça va être... Tu sais, il va avoir une meilleure chimie. Parce que c'est ça, quand tu arrives, tu es nouveau, puis que tu fais affaire avec une station qui est nouvelle. Je pense que, tu sais, on a grandi ensemble, si on veut, là. Puis c'est une belle relation qui dure avec TVA. Puis ben, je le dois à mon ami Derek que je salue. Fait que... Je profite des quelques minutes qu'on lui rend hommage, là, pour lui dire que sans lui, là, peut-être que les 4 chevaliers, on ne serait peut-être pas là non plus.
Non, puis sincèrement, merci Derek, parce que grâce à toi, on peut les voir à la télévision, puis ça continue de s'améliorer d'année en année, les 4 chevaliers à devenir de plus en plus gros. Puis écoute, on va en parler encore un peu en largeur, si on veut, des 4 chevaliers, là, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé on sait que ton père, là, moi, je n'étais pas au courant, sincèrement, mais que ton père était impliqué dans les 4 chevaliers au tout début. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as voulu faire repartir ça, ou c'est il y a quelque chose d'autre qui est arrivé dans ta vie que tu as dit, là, je me lance à fond là-dedans? C'était-tu un rêve ou explique-nous ça?
Non, c'est parce que moi, j'avais vécu les plus beaux moments de ma vie à suivre mon père dans les 4 chevaliers. Et là, je dis ça peut-être parce que je n'avais pas vu tant de moments, parce que moi, l'été, premièrement, l'hiver, on allait à l'école l'automne, l'hiver, puis le printemps. Puis l'été, ma mère était fermière, dans le fond, jardinière. On a des terres agricoles avec des concombres, des melons d'eau, des cantaloupes, des petites fèves, des petits pois, des blédins. C'est toutes des choses qu'on a eues sur nos terres. Puis bref, moi, quand je finissais l'école, c'était un petit peu la même éducation que les fermiers puis que ma mère a eu, c'est-à-dire qu'on allait travailler puis on n'avait pas un mot à dire. Et les seuls moments où est-ce que je pouvais m'en aller, c'est quand mon père venait me chercher pour m'amener au match. Fait que, écoute, je pense que pour moi, j'ai pas besoin de t'expliquer que c'était pas mal plus le fun que de travailler ces terres agricoles. Puis comme je te dis, pour moi, ça a marqué ma vie, ça a été les plus beaux souvenirs. Faire de la route, voyager à travers le Québec, se faire accueillir toujours 5 étoiles un peu partout. Les gens étaient fins. J'ai vu ça en étant jeune. J'ai voulu devenir ces gars-là. Tu sais, j'aurais aimé quasiment pouvoir avoir la chance de jouer avec Claude Potvin même ou avec mon père, mais ça l'a pas donné de même. Là.
J'ai joué avec sa fille, par contre, qu'on salue également, Sophie, je pense.
Sonia,
excuse-moi, j'avais juste saut dans la tête.
Exact. Mais c'est ça, fait que non, c'était vraiment un rêve de jeunesse. Quand je les regardais, je connaissais le show par cœur, j'écoutais le cassette VHS à l'hiver au complet, puis quand on revenait au printemps, Claude, qui était notre fondateur puis qui était le comique du spectacle, il y a des jokes qui ne se rappelaient plus. Moi, étant donné que j'avais écouté la cassette VHS au complet pendant tout l'hiver du spectacle, en boucle, il m'a dit, je m'en rappelais de ses jokes. Fait que, je pense que j'avais genre 7 ans, puis même Claude pourrait le dire, s'il était encore en vie, là. Je pense que j'avais 7 ans, puis quand il arrivait le printemps, puis les pratiques d'avant-saison, c'est moi qui remontais un peu le show à certains moments où est-ce que lui, des fois, il en oubliait des bouts, là. Fait que ça a été là, tu sais, je me sentais bien valorisé parce que Claude, bon, il servirait vers un jeune de 7 ans pour faire confiance à son opinion ou ses idées sur un show aussi grandiose que les Chevaliers. Fait que moi, ça m'a stimulé, ça m'a fait rêver. Je voulais devenir comme Claude Potvin, c'était un peu mon idole. Puis mon père aussi, mais j'aimais surtout le côté humour. J'aimais beaucoup le fait de faire rire, j'aimais le fait d'être un showman.
Oui, mais c'était ça ton intention. Tu rêvais d'avoir ton propre show d'humour. Si j'ai vu une entrevue que je te conterai plus tard, mais que tu avais déjà dit ça. c'était dans ton intention plus jeune.
Oui, exact. Ben, en réalité, dans le fond, moi, avant de prendre les Chevaliers, je voulais me faire les dents en humour parce que je te dirais que les Chevaliers, tu sais, en dedans de moi, je savais qu'au niveau de la balle, tu sais, frapper de dos, frapper de main, faire plein de niaiseries avec mon bâton. Écoute, j'ai tellement voulu être ces gars-là que toute ma jeunesse, j'ai fait juste ça, me pratiquer à devenir les quatre chevaliers. Tu sais. Je pensais que j'allais jouer éventuellement, mais bon, je savais pas quand. À un moment donné, Claude a pris sa retraite. Bon, là, après ça, ça a un peu annulé comme l'idée de rentrer dans l'équipe parce que je m'imaginais pas non plus contrôler l'équipe puis gérer la patente au grand complet. Fait que, ben, Claude est décédé et entre son décès et la reprise que moi j'ai faite, je pense qu'il y a eu environ 8 ans. Entre les deux, il y a eu 10 ans environ. Okay. Entre la retraite de Claude puis la fin des quatre chevaliers du temps de Claude. Fait que, bref, il y a eu 10 ans. Puis moi, ben, quand ça a fait 10 ans, justement, j'ai senti un peu une espèce de démangeaison en dedans de moi là, qui me chatouillait le ventre. Puis, tu sais, j'avais fait plusieurs shows d'humour dans des bars, j'avais produit des gros événements, j'avais fait juste pour rire au Théâtre Saint-Denis, j'ai fait le Grand Rire. À Québec. J'ai fait tous ces galas-là. J'ai écrit pour des humoristes. J'ai écrit pour Juste pour rire. J'ai été engagé par Juste pour rire comme scripteur pour des concepts. J'ai été engagé par Musique Plus comme scripteur, Radio Énergie. Fait que, tu sais, j'avais vraiment fait plein d'affaires dans le monde de l'humour. J'ai écrit les plus gros shows d'animation de foule extérieure là, à l'époque à Juste pour rire. C'était animé par Christopher Williams.
Ah oui,
on rassemblait genre 10 000 personnes. Christo, c'était le plus grand animateur de foule des arts de la rue, là, que Juste pour rire avait. Dans le fond, c'était extérieur, mais c'était vraiment des gros événements. Là, puis, puis c'est ça, j'ai participé à tout ça. Fait que Christo, Christopher Williams, je lui dois une chandelle, une fière chandelle, parce que c'est vraiment à travers son animation extérieure que j'ai aussi tiré mes conclusions là-dedans, de comment bien animer des gens dans un contexte extérieur, parce que c'est complètement différent d'une scène. On doit vivre avec le manque d'attention, le fait que les gens discutent parce que, tu sais, c'est vaste puis les gens se sentent un peu plus à l'aise de parler. Il y a une clôture qui nous sépare. Fait que comment est-ce qu'on est capable d'aller les chercher puis de les garder? C'est là le défi tout le temps, tu sais. Puis c'est probablement Christopher Williams puis ses spectacles qui m'ont aidé vraiment à faire ça. Mais aussi que j'ai animé dans un bar qui s'appelait La Queue Leuleux dans le Vieux-Montréal.
Un autre bel
événement de ma vie. C'était un spectacle un peu comme Coyote Ugly, tu sais, mais avec des gars.
Ouais.
Au lieu d'être les filles qui dansent, c'était des serveurs. C'est moi qui animais, je faisais les danses, je dansais. C'était vraiment très humoristique aussi. C'était un job dans un bar. J'avais 18 ans quand j'ai travaillé là, jusqu'à 22 ans. Puis ça aussi, je pense que ça a été bon pour le côté là, vraiment d'aller chercher des types de clientèle qui ne sont pas trop attentifs, là, tu sais, mais d'aller les chercher. Les chevaliers, c'était ça le défi. Puis c'est tout ça que ça prend quand même. Il faut que tu te sois fait les dents avant dans le domaine de l'animation, dans le domaine humoristique, parce qu'il n'était pas question que j'aille pas travailler dans le domaine de l'animation puis de l'humour avant de lancer Chevalier. Parce que c'est pas vrai que je suis lancé Chevalier puis je me mettais à faire des jokes comme ça. Hey, écoute, on avait un projet qui était beaucoup trop grandiose pour prendre le risque comme ça de rater le retour. Puis,
c'est écoute, très je vais te dire, ambitieux.
Le retour a été tout sauf raté. Fait que ça, c'est vraiment. J'ai été chanceux, moi, de dire. Mais j'ai été chanceux. J'ai mis. Je serais même pas dit mis du travail. Ouais, il y a eu du travail, mais il y a surtout eu des heures de jeunesse à l'âge éponge qu'on appelle à absorber ce show-là. Des fois, même, je te dirais, j'ai eu l'impression qu'à certains matchs du début, je quittais mon corps. Claude Potvin rentrait dans mon corps, faisait le show à ma place. Je reprenais mon corps à la fin de la game.
Tu jouais un personnage, mais tu te sentais épaulé là-dedans.
Oui, j'avais ce feeling-là parce que je parlais comme lui. T'sais, au début, t'sais, vraiment, là, je refaisais ses jokes, ses sketchs de A à Z avec la même intonation. Puis après ça, c'est un peu plus tard, là, t'sais, comme mettons, la première année, c'était ça. Puis après ça, j'ai commencé à ajouter mes jokes, puis à reprendre ma couleur, puis là, à le faire à ma façon. Mais au début, vraiment, comme je te dis, t'sais, on parle de travail, mais c'est surtout l'âge éponge. J'ai tout absorbé à jeune âge.
Mais là, toi, ton parcours de baseball, là, parce que tu as vraiment un calibre qui est assez très, très bon. Là, je veux dire, tu es tout un joueur de balle. Tu as appris où? Tu as fait quelle classe exactement? T'as-tu joué dans un niveau élite? Tu as fait quoi?
C'est bon, là, parce que tu sais, je te parle de mon amour pour les quatre chevaliers, puis mon père avait bien réalisé à quel point que j'étais un passionné de ce spectacle-là, à un point tel où est-ce qu'à un moment donné, on a eu une décision à prendre avec mon père. Je jouais au baseball quand même, tu sais, j'étais jeune, puis je jouais tout le temps une catégorie en haut de mon âge, parce que bon, j'ai grandi avec des bâtons, j'ai grandi avec une balle des mains, parce que mon père, c'était son sport, puis c'était un quatre chevalier. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a eu ça dans mon entourage, dans ma vie, ça a été juste la balle, puis il m'a initié au golf aussi, mais ça, c'est une autre histoire, je suis pas sûr que j'aime autant que la balle. Mais, je joue, mais je me fâche trop souvent. Ça.
Ah, les bâtons, histoire. Ils partent dans le bois assez vite. Tu comprends.
Mais c'est ça. Puis à un moment donné, à l'âge moustique, quand j'allais monter, il m'a demandé, moi, je dis, Renaud, il dit, ta mère, elle travaille ses terres agricoles, la famille. Il dit, elle a pas le temps, l'été, elle travaille, je pense qu'elle travaillait 80 heures semaine. Il dit, mon père était propriétaire d'un restaurant à l'époque. Il jouait des quatre chevaliers. Il dit, on va avoir de la misère à courir tes games de balle, mais il dit, j'ai trouvé quelque chose si tu veux pas perdre la touch. Si tu veux, il dit, regarde, il dit, moi, je vais t'amener à chaque game des Chevaliers qu'on va jouer, je vais t'amener. Puis on avait la chance que nous autres, on voyageait avec Claude Potvin. Puis lui habitait à Brossard. À l'époque, il y avait un lance-balle à côté de l'autoroute 10 puis du boulevard Tachereau. Okay. Tu es directement là à l'époque, à côté du Toys R Us. Il y a du monde qui va savoir d'où je parle, mais bref, il était là. Puis Claude Potvin habitait à 2 minutes de là. Fait que nous, dans le fond, ce que mon père avait fait comme entente avec moi, c'est on va aller frapper des balles avant chaque match, puis après ça, on va se rendre chez Claude Potvin. Fait que j'en frappais 100 avant chaque match. Fait qu'automatiquement, en quittant le baseball à l'âge moustique, où j'aurais probablement pas eu la chance de frapper un aussi gros volume de balles, puis mon père, ben c'est ça, il m'amenait là. Fait que je frappais 100 balles avant chaque game. Si on parle qu'on en jouait une cinquantaine, ben, tu sais, ça me faisait beaucoup de volume. Puis, ben après ça, ben c'est ça. Ben pendant les games des Chevaliers, ben là, écoute, on arrivait d'avance. Puis mon père, il prenait tout le temps une bonne demi-heure avec moi pour qu'on se pitche la balle, puis qu'on se pitche la balle. Puis ça a été ça. Ça a été la continuité de ma carrière. Puis quand les Chevaliers ont terminé, après, en 2003, je me suis inscrit dans une ligue de fast pitch. Il y avait encore une ligue de fast pitch ici dans mon coin. La fast pitch étant de moins en moins populaire. Je pense qu'on a commencé à la relever, d'ailleurs, depuis qu'on est revenu. Mais c'est ça, je jouais avec le père Olivier Primo du Beach Club, qui est un excellent lanceur de balle rapide. Très, très bon lanceur. Il était dans mon équipe. C'est ça, j'avais 17 ans. Puis là, je me suis réinscrit dans cette ligue-là. Puis j'ai super bien joué. J'avais fait un circuit, d'ailleurs, cette année-là, contre le meilleur lanceur de la ligue. Puis étant donné que j'avais lâché de l'âge moustique, aller jusqu'à 17 ans, bien, le circuit que j'ai fait à 17 ans, ça c'est devenu le premier circuit de ma carrière.
Ouais, c'est spécial.
Puis quand j'ai fait ça, c'est super touchant parce qu'en même temps, genre, j'avais arrêté. Mon père savait le sacrifice que j'avais fait d'arrêter de jouer à la balle. Puis quand il est arrivé au match, il venait juste d'arriver, il est arrivé au champ, j'arrivais au bâton, j'ai fait un circuit, pareil comme qu'il a fait devant moi tout le temps que je l'ai suivi étant enfant dans les Chevaliers. Puis ça me rendait tellement fier de voir mon père frapper un circuit. Je me rappelle quand j'étais petit, là, ben là, de voir que mon père arrivait comme ça du champ puis qu'il assistait à mon premier circuit à vie.
Ouais, c'est spécial.
Ouais, ça a été un beau moment. Là,
dans le fond, toi, tu as toujours joué à fast pitch, mais dans le fond, tu n'as jamais pu jouer au baseball en tant que tel, exemple, dans une catégorie Baseball Québec.
Ouais, j'ai lancé à l'âge moustique, moi, le baseball. Puis après ça, ça a tout été la fast pitch. Wow. Quand la ligue de fast pitch a terminé, moi, à Sainte-Martine, où est-ce que je jouais, ben là, ça a été une ligue de balle donnée. Fait que je jouais un peu à balle donnée jusqu'à temps que je reparte les quatre chevaliers, puis que là, officiellement, je me suis remis à faire le fast pitch, puis à m'entraîner au fast pitch.
Ben, t'as-tu déjà eu des opportunités, je peux dire, que quelqu'un t'a déjà proposé qui pouvait être intéressant au niveau peut-être plus professionnel, parce que tu as clairement un calibre qui peut intéresser certaines équipes?
Non, quand j'ai parti, je te cacherai pas, j'ai arrêté de jouer à balle pendant un certain temps. Là, déjà, comme quand tu n'es plus des radars là, au niveau moustique, là, puis tu sors des radars, tu avais beau revenir à 17 ans, et l'âge est passé, là. Dans le fond, l'âge où est-ce que ça aurait pu arriver, je l'ai passé à suivre les Chevaliers. Je peux te dire, je ne regrette absolument rien de ma décision. Je suis exactement où est-ce que je veux aujourd'hui. Je n'envie aucun joueur des ligues majeures, mis à part des fois peut-être que leur voiture ou leur maison, là, mais peu importe. Je veux dire, ma vie est plus calme, mais je suis tellement fier de faire ce que je fais, de croiser les gens, d'être proche du monde, de faire rire le monde, de ramasser des sous pour des bonnes causes. Tu sais, je t'en parlais tantôt, mais de se sentir utile comme ça, puis de sentir que je fais un travail, je gagne ma vie, je ne vole pas personne, au contraire, on en redonne en plus. Moi, pour moi, c'est un rêve de jouer des chevaliers. C'est ça qui était mon rêve, tu sais. Fait que je l'ai réalisé, puis je suis entièrement accompli là-dessus.
Très inspirant, Renaud, parce que on a, le but du podcast, c'est de recevoir des parcours qui sont inspirants. Puis, tu sais, toi, tu es l'exemple parfait de quelqu'un qui fait ce qu'il aime dans la vie. Tu sais, je t'écoute parler depuis tantôt. Tu dis que tu as une passion pour l'humour. Tu aimais donner ton. Tu t'aimais te donner en spectacle devant les gens, faire rire les gens, redonner à la communauté et travailler dans ton sport en plus, qui est le sport préféré que tu pratiques. Et en plus, reprendre un héritage familial que ton père t'a tellement démontré depuis le début de ta jeunesse. Bon, aujourd'hui, tu fais tout ça à la fois. Je pense que tu peux juste être très satisfait de ta carrière qui est extrêmement bien réussie jusqu'à maintenant.
Vraiment, vraiment. Je suis vraiment content. T'sais. Puis je vais te dire franchement, fait qu'on a reparti ça, on l'a reparti sans aucune prétention. On l'a reparti quasiment quand même, à même titre qu'un spectacle hommage, si on veut. Là, on voulait tout simplement rendre un grand hommage autant à Claude Potvin, qui était vraiment mon idole, le gros comique du spectacle de l'époque, mais mon père aussi, André Labelle, tous ces anciens-là que je trouvais malheureusement oubliés. Quand j'ai reparti en 2013, ben, je voyais Warren Cromarty aussi qui essayait de relancer le Montreal Baseball Project. Il était pas mal tout seul dans ce temps-là. C'était pas mal le seul, je te dirais, là, quand on commençait à reparler. Les Blue Jays n'avaient pas commencé encore à jouer au stade. Quand on a reparti ça, on a vraiment... C'était fou, là. Tu sais, je me rappelle, en 2014, José à Sept-Îles, tu sais, puis les petits gars, ils ont tous des casquettes des pirates. Russell Martin était avec les pirates à l'époque, puis je demandais aux petits gars, connaissez-vous Russell Martin? Tu sais, ils connaissaient même pas Russell Martin, puis ils ont la casquette des pirates. C'est juste la balle, et ils n'en parlaient pas encore tant que ça.
Ça a revenu tranquillement,
dans les médias, tu sais. C'est revenu après ça à Sport 30, à TVA Sport.
Ouais. Là, ils ont avec commencé les Blue Jays, je pense que...
Mais ça a été... C'est ça, quand on est revenu, nous autres, c'était pas... On n'était pas dans le gros boom de qu'est-ce qui est survenu après quelques années plus tard. Fait qu'on a vraiment contribué au début de l'effervescence là, de tout ça. J'attendais tout simplement ça. J'attendais que quelqu'un sorte. Warren Cromarty l'a fait. Il ne sait même pas, mais Warren, je dois quand même une fière chandelle. Ça a été le premier qui est sorti pour dire on aime la balle, on veut de la balle ici. Puis faisons des actions concrètes pour démontrer qu'on veut voir nos expos de retour. Puis les souvenirs que j'ai d'aller voir nos expos, ça m'a fait. C'est une des raisons qui a un peu déclenché en moi le désir de relancer Quatre Chevaliers. Puis aussi le fait que ma blonde est enceinte de mon premier enfant. Je pense que j'ai vécu la plus belle jeunesse au monde à suivre mon père, à parcourir le Québec, à rencontrer des gens comme ça, extraordinaires. Comme je t'ai dit, qui nous accueillent à chaque fois avec une qualité d'accueil. Je ne peux même pas comprendre. Là. Je veux dire, on s'en va à Caracat. T'en veux-tu des crabes, des homards, puis, du caviar? T'as tout. C'est du monde content de te voir. Puis... Fait que dans le fond, moi, je faisais bien des shows d'un bar d'humour à cette époque-là quand ma blonde est tombée enceinte. Puis j'ai vraiment tout lâché ça. Ça m'a comme tanné. Ça m'a comme... Je voyais où je m'en allais dans une espèce de pattern qui faisait que là, tu sais, vous en voulez du sang, eh bien, je vais vous en donner du sang. Fait que tu sais, c'était pas toujours propre les jokes que je faisais. Puis là, je me voyais mal avec mon fils continuer à faire c'était cette vie-là un peu, tu sais, puis dégager une image de bombe pour faire plaisir à la clientèle qui était dans les bars à cette époque-là. Fait que non, j'ai comme un peu pris cette décision-là de vraiment lâcher l'humour stand-up, là, puis consacrer vraiment mes énergies à l'humour du spectacle des Chevaliers. Puis aujourd'hui, c'est la plus belle décision parce qu'il n'y a pas de routine plate des Quatre Chevaliers comparativement à, mettons, Martin Matt qui a déjà fait une dépression en plein dans une tournée, justement parce que sa routine, elle devait être pas supportable. Un show d'humour, répéter les mêmes jokes, virgule par virgule, point par point. Je l'ai fait. Puis c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs pour avoir un bon numéro. Mmh. Fait que, quand tu arrives à être drôle et à être vraiment bon, là, c'est parce que tu as structuré ton affaire point par point, puis virgule par virgule. T'sais.
Mais je pense qu'il y a toujours place pour la créativité. Tu sais, les conférences que je donne, aujourd'hui, je suis représenté par PPS Canada, en fait, qui est une agence de conférenciers.
Ah oui, Steve Godbout.
Oui, Steve Godbout qu'on salue. Puis, tu sais, c'est vraiment...
Steve, c'est un grand ami, PA...
PA méthode.
J'ai fait des shows avec PA à l'époque. J'ai fait bien plusieurs shows. Moi, j'en ai produit. Puis souvent, quand je produisais des événements, là, c'était tout le temps un des gars que j'appelais en premier, PA. Lui, c'est un netter qui a... Lui, il a été bon, d'ailleurs, lui, parce qu'il a vraiment commencé trash dans les bars. Il réussit à devenir grand public parce qu'il était tellement... Il était tellement drôle, PA.
Il l'avait.
Moi, j'ai toujours adoré, mais autant comme individu aussi, parce que, tu sais, c'est pas tous les humoristes qui sont des bonnes personnes. PA, j'aime ça quand j'ai vu que PA avait du succès et qu'il commençait à connaître le succès qu'il mérite. Quand, je dis qu'il mérite parce que PA, c'est vraiment une bonne personne. Là, c'est
On a une couple de bons dans notre agence. Il y a Hugo Girard aussi qui fait des bonnes conférences. Pas de côté, la UFC que j'ai reçue au podcast. Non, eux autres, aussi.
C'est des mangers de marde.
On tombe dans le trash.
les deux filles
à qui s'attaquer. Ouais, c'est ça. Ils vont te prendre, tu vas voir, dans le détour assez comme il faut. Mais non.
Hugo puis Pat, je le sais très bien parce que j'avais booké Patrick. Côté une conférence justement à Drummondville. Finalement, malheureusement, avec le COVID et la fermeture des écoles, il n'y a pas pu la faire, mais je l'avais bouqué là. D'ailleurs, c'est l'école où est-ce que mon ancien lanceur des quatre chevaliers est directeur.
Ah, ben
c'est là que le lien, ouais, puis j'avais appelé Steve justement.
Ça donnait bien. Ben écoute, on espère que PPS puisse pouvoir rebooker à nouveau des spectacles, des conférences, tout ça, parce qu'on sait pas où que ça s'enligne. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai remercié énormément parce qu'ils m'ont donné cette chance de, sans avoir, comme t'expliquais, tu sais, que Martin Matt, il rode son show parce que c'est toujours la même chose au centième près, puis on l'a déjà vu avoir des blancs aussi sur stage.
Exemple, oui, t'as raison. Oui, non, les conférences, tu as raison.
Tu peux être improvisé un peu, sincèrement, c'est rare parce que énormément de conférenciers, je connais que c'est pareil comme des humoristes, là, que c'est de A à Z, soit peu importe la conférence, puis tu as l'impression que c'est le même mot dans la même ordre, puis rien, il n'y a pas d'espace pour de l'improvisation. Puis moi, c'est ce que j'offrais, je peux dire, de différent, c'est que j'ai une feuille qui est bien remplie de une structure. J'ai une structure que je me base dessus, qu'à chaque fois, c'est un peu le même type de conférence. Mais ça arrive des fois que je vais skipper cette partie-là. Je vais dire, je vais parler avec le monde, un peu comme Sugar Sammy qui improvise beaucoup. J'aime vraiment le contact avec le public. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça devient moins redondant. Puis je ne sais pas, comme tu dis, je ne sais pas comment.
Non, mais tu as raison. Écoute, c'est l'enfer. Pourquoi j'adore faire le show des chevaliers. Tu sais. Chaque frappeur est différent. Chaque frappeur a une position différente. Moi, c'est tout mon jus à moi, ça, là. Tu sais, chaque frappeur, là, lui, il a une moustache. L'autre, il n'a pas de cheveux. L'autre, il est gros. L'autre, il est petit. L'autre, il est maigre. L'autre, tu sais, on s'attaque à tout, là, tu sais, en réalité, tu sais, dans le fond. Les chevaliers, c'est un exemple même de comment bien rire de soi. Tu sais, quand tu prends l'autre équipe, c'est des gars qui démontrent, juste par le fait de venir se porter à ce jeu-là, une belle humilité, tu sais, puis les gens le voient comme ça, parce qu'en réalité, c'est un spectacle, les gars savent à quoi s'attendre, on les taquine sur tout et sur rien, mais tu sais, je pense que ce qui reste de ça, c'est que quand le monde voit comment les gars, ils prennent ça en riant, puis c'est important que l'autre équipe rit, tu sais, parce que sinon, ça devient de l'intimidation, mais au moment où l'autre rit, ben ça devient de l'humour, puis c'est ça que j'aime, c'est j'aime ça pouvoir... m'accrocher à toutes les perches comme ça que différentes personnes m'amènent dans mon show pour pouvoir justement rendre ça moins redondant. Puis quand j'ai commencé à goûter à ça dans les quatre chevaliers, j'ai plus jamais retourné faire des shows de stand-up.
Donc, oui, désolé tout le monde pour le petit imprévu. On va terminer ça rapidement parce que Renaud a un petit problème de cellulaire en ce moment. Je suis vraiment désolé à tout le monde. Ça a été en masse plus qu'on pensait. On aurait parlé plus des quatre chevaliers, mais que voulez-vous? Dans le fond, je voulais juste peut-être, si on a le temps de parler rapidement, comment tu vois l'avenir avec les quatre chevaliers? Est-ce que ça te fait un peu peur de marcher sur des œufs avec l'humour en ce moment qu'on voit, qu'on n'a plus le droit de parler trop de sujets? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur en ce moment?
Ah, tu me parlais des sujets en humour, ça,
écoute.
ben, ça, c'est pas juste depuis récemment, là, ça fait très longtemps que c'est commencé. Nous autres, les chevaliers, moi, je l'ai même réalisé, tu sais, parce que je te disais que je connaissais le spectacle de l'époque par cœur, mais je peux te dire, en tout cas, il y a une couple de jokes qu'il a fallu que j'arrête de connaître parce que. Mais tout ça pour te dire que, tu sais, nous autres, les chevaliers, il a fallu qu'on enlève beaucoup de jokes là, de l'ancienne génération, là. Tu sais, des fois, j'étais en mode automatique, là. Ça m'est arrivé quelquefois de sortir des jokes de l'ancienne génération, comme ça, tu sais, sans même vouloir faire mal à la personne, tu sais, juste comme en ne pas réfléchissant, puis en comme je te disais tantôt, là, Claude Potvin possédait mon esprit. Puis,
faut juste marcher sur des yeux un peu plus.
ouais, tu sais, j'ai réalisé, là, qu'on parle de ça, des jokes qui se faisaient dans les années 90, puis on est maintenant rendu en 2020, puis on ne peut plus les faire. Fait que, tu sais, je suis habitué avec ça. De toute façon, les chevaliers, c'est pas mon but d'aller non plus trop sur les terrains glissants. Non. On est de plus en plus familial. On l'a jamais été autant avant avec O'Keefe. On avait un peu moins d'enfants à nos événements. Là, t'sais, on est rendu vraiment... C'est plus pour le baseball mineur. On rassemble beaucoup, beaucoup de familles parce que, bon, c'est les souvenirs des jeunes de l'époque qui sont rendus les parents d'aujourd'hui. Fait que, t'sais, je pense pas qu'on peut se permettre de trop rentrer là-dedans, nous autres. Fait que, t'sais, est-ce que ça me touche? Moi, rendu là, nous autres, combien de fois qu'on voudrait faire des jokes plus approfondis, puis quand on essaie de les faire, finalement, on se rend compte que ça demande trop l'attention du public. Les gens sur un terrain de balle, comme je t'expliquais, bon, l'attention est moins présente, ils décrochent. Fait qu'on reste ça simple, on garde l'humour léger, puis inoffensif pour personne. Mettons, je te dirais, là, j'ai 3 gags dans tout le show qui sont un peu en bas de la ceinture, mais les gens ne peuvent pas les comprendre. Mais ils sont quand même en bas de la ceinture et bizarrement, ça reste les 3 plus grosses réactions du spectacle.
Exactement. Faut pas dénaturer non plus le show, ça reste
quelque chose. Mais on en fait quand même quelques-uns, mais on s'assure que ce soit subtil puis que ça puisse être compris par les adultes, mais pas par les enfants.
Ça, c'est parfait. Écoute, Renaud, je me dépêche parce que je sais que ton téléphone va lâcher, mais je peux pas te quitter sans parler du backward home run. Le coup de circuit par en arrière que tu as fait. Parle-nous un peu de ce moment-là. Quand est-ce que c'est arrivé, ton idée de frapper un circuit par en arrière et toute la frénésie qui est arrivée par la suite avec.
C'est l'année après mon année du premier circuit de dos qui est sorti sur Internet en 2015. Ça a commencé là, les vidéos virales. Écoute, ça a dépassé ce que j'aurais pu m'imaginer. Tu sais, quand j'ai reparti chez Chevalier, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire que les anciens n'ont pas fait? Puis, ils avaient tout fait au Québec, les anciens. Mis à part que d'avoir une émission hebdomadaire à la télévision, puis ils sont là depuis 7 ans. Puis, mis à part que de réussir à propager le nom de l'équipe au niveau mondial, puis ça, on l'a réussi en 2015 avec le circuit de dos. On a continué après ça en 2017, un deuxième vidéo virale. C'est un circuit à une main en passant le bâton dans mon dos cette fois-là. Deux vidéos qui ont été signées à Los Angeles par la plus grosse firme de vidéos virales au monde. Eux autres, ensuite, se sont chargés de les propager un peu partout. Puis, écoute,
c'est ça, SportsCenter, c'est ça?
Non, sur SportsCenter, ça, c'est ESPN. ESPN, moi, dans le cas, okay. Joking Media avec les Fail Army puis les People Are Awesome. C'est une grosse firme de vidéos virales. Puis, bref, c'est eux autres qui m'ont appelé. Ils me donnaient de l'argent à signature. Puis, je disais non. Puis, à chaque jour, ils montaient le prix. Fait j'avais perdu au-dessus de 20 000 avec le vidéo que quelqu'un m'avait copié, puis il l'avait mis sur sa chaîne YouTube avec de la pub. Puis écoute, j'avais eu 4 millions de vues, puis c'était pas à moi, c'était mon vidéo qui était pas sur mon compte finalement. Puis la compagnie m'a appelé, ils m'ont dit tu te fais voler, on va te protéger tes droits de vidéo, blablabla. Fait que j'ai signé avec eux, puis là finalement c'est ça. Là, j'ai fait au-dessus environ peut-être de 50 000 $ avec le vidéo par la suite.
50 000 avec un vidéo. Hey, c'est incroyable.
J'en ai signé 2 avec 2 vidéos, j'en ai signé 2. Il y en a un qui était 40 000, l'autre c'est 10 000, là, mais c'est ça le premier circuit de dos. Puis j'ai signé l'autre à une main. Écoute, c'est 2 vidéos qu'ils ont utilisées là, sur la page des Jeux Olympiques là, pour promouvoir le retour du baseball et du softball aux Jeux Olympiques.
C'est vrai.
C'est pas rien. Écoute, j'ai été interviewé sur Fox and Friends à New York. Je me suis rendu là-bas, le plus gros show du matin des États-Unis. J'ai été interviewé par Skype au Japon sur NHK, qui est la télévision nationale du Japon, un peu comme notre Radio-Canada, si on veut. Fait que ça m'a amené vraiment tout ça. Puis là, tu vois, ça repartit le feu. Après, ben, comme je te dis, il y a eu 2015-2017. Là, cette année, avec le confinement, moi, j'ai l'impression que c'est à cause du COVID puis du peu de sport qu'on avait à se mettre sous la dent. Ben, ouais. Là, il y a une autre vidéo d'un autre coup de circuit que je fais. Cette fois-là, c'est pas un circuit de l'autre bord de la clôture dans les limites du terrain. C'est une fausse balle, le circuit.
Ouais, c'est ça. Je l'ai regardé partir. Je me sens qu'elle part fort-ball un peu.
Ah, mais je l'ai tellement connecté solide que si je pense l'ensemble du... la prise de vue qui est impressionnante, mais celle-là, leur poignée, puis le ESPN, là, c'est reparti. Là, tu vois la compagnie Easton, je suis ambassadeur au Canada depuis 5 ans pour Easton, mais là, officiellement, le grand chef du marketing des États-Unis m'a appelé pour m'embarquer sur l'équipe nationale des États-Unis, dans le fond, le département mondial, là, international.
C'est une belle pub, puis en même temps, un beau partenaire.
ouais, fait que ça commence, ouais, c'est ça. Là. Fait que là, on a des pourparlers pour peut-être aller aux États-Unis là, pendant l'hiver. Moi, c'est sûr qu'au Québec, je pense jamais déroger de faire mes étés ici. J'aime tellement le monde, j'aime tellement mon Québec. Aller visiter des endroits comme on le fait chaque année, la Gaspésie, d'aller dans les pourvoiries de l'Abitibi, se faire accueillir par les gens là-bas, le Nouveau-Brunswick à Caraquette, de faire la fête, le festival acadien avec eux. Écoute, je vois pas où dans le monde je peux être mieux qu'ici, sincèrement. Tu sais, les États-Unis, c'est le fun qui nous offre un soleil à l'année, mais qui nous offre du gazon puis la température pour évoluer puis jouer à balle, mais ça reste que au niveau du monde, c'est dur à battre ce qu'on retrouve au Québec. Vraiment, là, on a fait des choses aux États-Unis, on l'a fait en Ontario anglophone. L'Ontario francophone, c'est comme le Québec. Pareil pour le Nouveau-Brunswick francophone, tu sais, je te dirais qu'on est pas mal tout pareil, mais on a vraiment une belle culture puis je suis bien ici. J'espère finir ma carrière à faire chacun des étés au Québec, mais Pour ce qui est de l'hiver, ce serait le fun quand même qu'on puisse prolonger ça plus que 3 mois et demi par année, là, les 4 chevaliers. Moi, j'aime ça. Puis je suis encore jeune. Pendant que je suis encore capable, ben, j'aimerais ça pouvoir au moins faire ça pendant 6 à 7 mois.
Ben oui, puis à l'intérieur, c'est faisable. Il y a des centres de softball. On pense au Dôme à Québec aussi, qu'on pourrait certainement organiser quelque chose avec des petites estrades à l'intérieur. Puis, je sais pas, tu as sûrement plein d'idées en tête.
On l'a déjà fait, mais tu sais, comme la balle, là, tu sais. Ouais. C'est l'odeur du gazon, c'est le soleil, c'est ça la balle pour moi. C'est bien beau être dans le dôme, j'haïs pas ça, c'est un beau plan B, mais la vraie ambiance, elle se passe dehors. Puis c'est pour ça que j'aimerais quand même... Puis non plus, on en fait en masse au Québec pendant l'été, que si jamais on avait à quitter pendant l'hiver, je pense pas que le monde nous en voudrait de pas jouer 2-3 matchs au Dôme. Il trouverait ça plus le fun qu'on soit à Vegas, d'après moi. Mais
ouais.
Vegas, c'est on a des pourparlers, puis on sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est embryonnaire, mais on a quand même un début là, d'approche de fait là, pour tenter le terrain là-bas. On pense que c'est un marché qui pourrait être facile à mixer avec les chevaliers. Là, juste peut-être adapter le spectacle, aller mettre un peu plus d'acrobatie, peut-être avec un jongleur, puis une couple d'affaires de même plus... C'est plus Cirque du Soleil, c'est un peu là, dans le même genre. Là.
Ouais.
Fait un petit peu moins de blabla, peut-être plus d'humour visuel, plus de setup d'éclairage. C'est sûr que ça prendrait un budget supplémentaire si on voulait développer ça, mais c'est ça. On est encore au stade de juste faire les premières approches puis de mettre les choses ensemble, mais ça devrait, d'ici les 3 prochaines années, là, il devrait au moins avoir un match de présenter à Las Vegas.
C'est incroyable. On pense aux vieux 4 chevaliers, puis les nouveaux 4 chevaliers, c'est vraiment... Vous êtes en train de remettre sur la map les 4 chevaliers. Je parle de la map mondiale. Là, c'est plus juste le Québec. Ça grandit de plus en plus. Puis sincèrement, bravo Renaud pour ton implication avec les 4 chevaliers, d'avoir remis ça à nouveau sur la map, puis que de faire en sorte que les jeunes puissent être inspirés à nouveau par vous, par toi et par tous tes exploits de ton circuit de dos et à une main, bien sûr. C'est continuer d'innover aussi et à créer de nouveaux coups spectaculaires.
Merci beaucoup, c'est bien apprécié. Écoute, tu m'avais dit que ça durait 30 à 45 minutes.
Désolé.
Ça fait genre comme...
Une heure et demie. Je sais plus trop avec le découpage.
Ouais.
Là, mais...
avec les fois que mon cellulaire m'a lâché, je pense que ça fait 2h30.
Ouais, c'est ça. Au total, ouais, ça fait plus de ça. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je sais pas pourquoi ça fait ça avec tout le monde. Je devrais dire 2 heures en moyenne, mais j'ai pas un chat qui va accepter. Fait que je dis 45 minutes au cas où.
Ah, t'es bon.
Non, c'est un truc de vendeur. Je termine en disant un petit fait cocasse sur Renaud pour ceux qui ne savent pas. Tu as déjà participé au banquier. Je te dirais que je te prendrais dans le détour. Et oui, j'ai fini ça en beau temps, disant un petit fait cocasse. Ceux qui veulent voir, 19 ans, tu étais avec tes beaux cheveux blonds, puis.
165 livres.
Ouais, j'étais pas sûr, c'était toi-même, c'est le coup, pour vrai. C'était vraiment drôle. Je suis tombé là-dessus en faisant mes recherches sur YouTube. Fallait vraiment que j'en parle. C'était vraiment une belle. C'était drôle à voir, sincèrement. Puis le 32 000 à la fin, je pense que tu as été gambler jusqu'à la toute fin, comme dans toute ta vie.
Mente-toi pas pourquoi j'ai un cadre de Pete Rose.
Tu vois, si t'aurais été moins gambler, qui sait que t'aurais eu?
Pas grand-chose.
Exact.
Dans ce cas-là, c'est plate à dire, mais le gamble a payé.
T'as été des couilles d'acier, comme on dit. Fait que...
ouais. Je regarde ça. Des fois, je le regarde, j'ai encore des émotions. Là. Caroline, hein, j'étais plus courageux à cette époque-là. Je pense, après moi, je me serais arrêté à 20 000 aujourd'hui. J'aurais pas pu lâcher, là. Un matin, là. T'sais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que c'était pour le show.
T'as-tu aimé ton expérience quand même?
Je voulais donner un spectacle. Je pense que l'argent comptait pas pour moi. Je pense que je voulais vraiment que les téléspectateurs trouvent ça cool. Puis, c'était au début du banquier, fait qu'on savait pas trop, mais en réalité, après ça, j'ai réalisé que c'est pas mieux de donner le show parce que le monde, il t'a...
On t'entend. Hop. Non, on t'entend plus. Donc, oui, désolé. On va en parler peut-être dans un prochain podcast, tout le monde. Écoutez, il y a eu des petits problèmes techniques avec Renaud durant une couple de temps durant le podcast. On est vraiment désolé. C'est le cellulaire. Au moins, on termine ça avec une belle photo de Renaud dans sa Ligue nord-américaine de hockey. Écoute, oui, j'aurais dû finir ça une minute avant, mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler du banquier. C'était mon fait cocasse qu'il fallait que je lui mentionne. Parce que oui, Renaud a participé au banquier en 2017, si j'ai bien noté, oui. Il a terminé avec un beau 32 000 $ donc c'était quand même assez drôle de le voir, de le voir au banquier. Bref, oui, c'était pas vraiment ça que je veux qu'on retienne de Renaud. Vous avez bien vu Renaud aujourd'hui à quel point il a une vie bien remplie avec les quatre chevaliers Easton maintenant, anciennement O'Keefe. Et puis, c'est vraiment exceptionnel ce que Renaud a réussi à faire et remettre à nouveau les quatre chevaliers sur la map. Également son implication avec la Ligue nord-américaine de hockey, qu'on a appris à connaître davantage les bons côtés de la Ligue nord-américaine de hockey. C'est important d'en parler. Et puis, continuer, espérons-le, de pouvoir les encourager prochainement dès que la situation le permettra à nouveau. Donc, bref, je vous remercie énormément tout le monde d'avoir été présent pour ce 20e épisode du Made in Québec podcast en compagnie de Renaud Lefort des quatre chevaliers Easton. Et puis, encore une fois, sincèrement désolé des petits pépins techniques. Ça fait partie d'un podcast, c'est sans filtre. Ça a été camouflé avec le montage, comme vous avez pu voir. Il y a des petits arrêts ici et là. Vraiment désolé encore une fois. Espérant que vous avez très bien apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Et puis oui, c'est pas ce qui conclut la semaine baseball parce qu'il va y avoir encore un dernier épisode qui va être diffusé. Donc merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent aujourd'hui. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode du Made in Québec podcast.